On y va? Ok. Bien. Donc, après l'apéritif qui était les mathématiques et qui, comme chacun le sait, sont pas très sérieuses, on va passer donc à des choses plus importantes, hein, la philosophie naturelle avec Nicolas Veille-Parot de l'Université Paris-Créteil. En fait, comme vous avez vu ce matin, pour les mathématiques, il y a vraiment eu des développements très intéressants et très importants, et des choses très originales chez les mathématiciens arabes. Je pense qu'on vous l'a bien dit ce matin. Pour ce qui est de l'Europe, ça arrive assez tardivement. On commence à voir des choses un peu nouvelles que vers le XIVe siècle, alors qu'on va voir qu'avec la philosophie naturelle, les choses sont un petit peu différentes. Voilà.
Merci, et puis je remercie Sabine Romvaux et Anne pour cette invitation. La question du transfert de connaissances et de savoir scientifique du monde et philosophique du monde arabe au monde latin au Moyen-Âge, et nous avons déjà eu l'occasion d'en parler ce matin, une question riche, complexe. Et cette question est éloignée dans le temps. 10e pour les premières infiltrations, 12e pour les grandes traductions, 13e siècle pour l'assimilation. Dès lors, cette question, bien qu'éloignée dans le temps, est instrumentalisée par certains hommes politiques, hommes de médias et même certains historiens qui voudraient en faire un enjeu contemporain. Cette instrumentalisation est un non-sens. L'histoire n'est pas un recueil d'exemplats à destination des prédicateurs contemporains, quel que soit leur choix idéologique. Alors j'en donne les deux extrêmes. Soit il y a d'un côté ceux qui veulent absolument minimiser la part de ce transfert en pensant que c'est le moyen de préserver l'identité européenne. De l'autre côté, à l'autre extrême, il y a ceux qui vont se ruer sur cet exemple, pensant par là pouvoir justifier leur vision multiculturaliste. Les uns et les autres se trompent, et se trompent doublement. D'une part, parce que les faits passés ont été une fois pour toutes actualisés, au sens aristotélicien du terme, et qu'il est absurde de les modifier post factum, comme l'auraient fait les serviteurs zélés des régimes communistes du siècle passé. D'autre part, parce que lorsqu'on comprend bien ce qui se joue dans ce processus de transfert, on s'aperçoit que les questions posées par l'actualité sont hors de propos. La recherche du social impact, comme disent les Anglais, ou la recherche de l'exemplarité pour une cause militante, ne devrait rien avoir à faire avec la recherche historique. Alors, je rappelle les évidences. Hein, donc, 12e siècle, c'est le grand siècle des traductions. Alors, je rappelle qu'auparavant, au Moyen-Âge, les sources disponibles de la science grecque étaient peu nombreuses pour des raisons qui ne tiennent pas du tout à l'obscurantisme supposé de l'Église chrétienne. L'Église chrétienne n'a jamais été hostile particulièrement à la science. Hein, c'est une idée reçue. Hein. Le principal problème du Moyen-Âge qui s'est posé à la chute de l'Empire romain, c'est un problème de langue. Hein, ça, Daniel Jacquard l'a magnifiquement rappelé. La langue internationale, si je puis dire, c'est anachronique d'employer ce terme, de la science antique, c'est le grec. Hein. À partir du haut Moyen-Âge, l'élite ne parle plus, pour l'essentiel, que le latin. Donc, évidemment, là, il y a un problème. Et par ailleurs, les textes eux-mêmes et les hommes capables de les comprendre se trouvaient sur plutôt de l'autre rive de la Méditerranée, dans les territoires qui, un temps, ont été entre les mains de ce qui devient l'Empire byzantin. Bon. Donc, pour des raisons tout à fait donc pragmatiques, il n'y a pas besoin d'aller chercher je ne sais quel génie ou antigénie dans tel ou tel... voilà. Alors, ce qui va m'intéresser, moi je vais parler de la science latine, mais je vais essayer de voir un peu comment ces traductions de textes arabes, ce que deviennent ces auteurs arabes dans la science latine. De ce point de vue-là, il faut mettre en évidence une invention occidentale, hein, qui est l'université. début du XIIIe, apparition d'universités à Paris et Bologne. Les Italiens diraient à Bologne et Paris, bon, le débat est ouvert, comme toujours. L'université n'a pas de précédent, c'est vraiment une invention médiévale, c'est, pour aller vite, une fédération d'écoles. L'université est une fédération d'écoles. Alors, j'espère, par les deux exemples que je vais traiter maintenant, essayer de faire comprendre les termes dans lesquels doit être pensée cette question de l'utilisation du savoir scientifique dans le domaine de la philosophie naturelle par les latins, par les universitaires latins. Donc, premier exemple, ce que je prendrai, c'est Avicenne et la notion de propriété occulte. Alors, le point de départ de ce problème remonte à Galien. Galien, le médecin grec de l'Antiquité, deuxième siècle après Jésus-Christ, dans son ouvrage, bon, plusieurs ouvrages, j'ai pris celui-là, hein, c'est assez clair, des médicaments simples. Alors là, je vous le donne dans la traduction arabo-latine réalisée par Gérard de Crémone. J'en ai la traduction. Et j'ai montré encore au sujet de la propriété du médicament que celle-ci est telle qu'elle altère le corps, soit par une qualité, quelle que soit cette qualité, c'est pourquoi elle réchauffe ou refroidit, ou dessèche ou humidifie, soit par deux qualités, c'est pourquoi elle est efficace dans les opérations que nous appelons deux opérations combinées, soit par toute la substance, per totam substantiam en latin, comme de nombreux médicaments pernicieux et de nombreux médicaments qui conserve, et tous les médicaments solutifs et de nombreux médicaments que l'on appelle attractifs. Alors, ça paraît un peu compliqué, en fait, c'est assez simple, l'idée. Pour Galien, il y a deux sortes de médicaments. Première sorte de médicaments, ceux dont l'opération, dont la qualité, s'explique par les qualités premières, donc qualité première, des médicaments qui agissent par leur propre qualité première, alors le chaud, le froid, le sec, l'humide, ou par l'agencement de ces qualités. Alors, l'agencement de ces qualités, par exemple, chaud et sec. Tout corps naturel est composé des quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Et chaque élément ont une qualité active, le chaud ou le froid, une qualité passive, le sec et l'humide. Et la qualité du corps résulte de la domination de tel ou tel élément dans le corps. Par exemple, un corps terreux sera dominé par les deux qualités premières propres à la terre, à savoir le froid et le sec. Le principe de cette médecine est simple, Joël Chandier vous en parlera plus longuement, mais si le malade souffre d'un excès de froid, on lui administre une médecine chaude. Donc voilà les médicaments les plus nombreux, ceux qui agissent par leur qualité première. À côté de cela, nous dit Galien, donc soit les qualités premières, soit le mélange des qualités. À côté de cela, il y a les médicaments qui agissent par, non par la qualité première, mais par des propriétés qui ne peuvent pas être rapportées à l'agencement de ces qualités premières, mais qu'il faut rapporter à toute leur substance. Leur substance tout entière. En d'autres termes, c'est une manière de dire, ils agissent ainsi parce qu'ils sont ainsi. Cette distinction de Galien est reprise et développée par le médecin de langue arabe, Avicenne. Avicenne, dans son encyclopédie médicale, Le canon de la médecine, ouvrage traduit au XIIe siècle par le même Gérard de Crémone, dit la chose suivante. Et certes, la chose qui opère par sa propre substance est celle qui opère par la forme de son espèce, forme qu'elle a acquise après la complexion. Cette forme donc n'est pas les qualités premières qu'a la matière, ce n'est pas non plus la complexion qui est engendrée à partir de celle-ci, mais c'est la perfection qu'a acquise la matière selon l'aptitude qui lui a été acquise à partir de sa complexion, comme dans l'aimant, la vertu attractive. vous reconnaissez les mêmes idées que celles exposées par Galien, mais formulées de façon un peu différente. Ici, Avicenne se réfère à la complexion, en latin complexio, qui est la traduction de crassis en grec, c'est-à-dire le mélange des qualités dans un corps composé, un corps mixte. Par exemple, l'exemple qui choisit un peu plus loin, par exemple, j'y reviendrai. Donc, la complexion va s'exprimer selon ses qualités dominantes. Certains corps ont une complexion froide, humide, d'autres chaude et sèche, etc. Là, on retrouve l'idée de Galien reformulée. Mais certains corps ont donc une propriété qui transcende ces combinaisons de chaud, froid, sec et humide, et toutes les qualités qui pourraient découler de ces combinaisons. Et cette propriété provient de la substance globale du corps, il redit exactement ce que dit Galien, apparemment. Une telle propriété n'est donc pas la qualité première, le chaud, le froid, le sec, l'humide, ni la combinaison de ces qualités, mais donc une aptitude particulière, une propriété particulière. Et l'exemple qu'il choisit, c'est la scamonée qui a la vertu, le pouvoir d'attirer la bile. Cette propriété sera appelée propriété occulte, par la tradition latine. Occulte parce qu'à la différence des qualités premières, chaud, froid, sec, humide, elle n'est pas sensible au toucher, donc elle est cachée au toucher, et elle ne se révèle que par l'effet. C'est pour ça que l'autre exemple qui est choisi, qui n'est pas dans le domaine de la médecine et que Avicenne cite, c'est l'aimant. L'aimant a la propriété occulte d'attirer le fer, et ce n'est pas parce que l'aimant est chaud, froid, sec ou humide, c'est qu'il a une propriété qui lui est propre. Et en touchant un aimant, je ne peux pas savoir qu'il va attirer le fer. Ce n'est pas manifeste. Alors que si je touche la flamme d'un bûcher, je sais tout de suite qu'a priori, ça va chauffer. Mais là, non. Il faut vraiment que je mette le morceau de fer. Donc, ce n'est compris que de façon empirique. Donc, cette connaissance, comme ce n'est pas sensible au toucher, du coup, la connaissance elle-même est cachée, en quelque sorte. Et on ne peut rien dire d'autre que le fait que c'est parce que... Alors là, le terme est intéressant. Le terme introduit par Avicenne, ce n'est plus le terme de toute substance qu'il reprend, mais il ajoute le terme forme spécifique. C'est-à-dire, c'est la forme de l'espèce. C'est la forme de l'espèce aimant qui explique que l'aimant est la propriété d'attirer le fer. L'introduction du terme forme spécifique n'est pas un hasard, n'est pas faite au hasard par Avicenne. Il faut replacer cette notion que l'on voit apparaître dans un contexte médical, dans l'ensemble de l'œuvre d'Avicenne. Avicenne est non seulement un médecin, mais c'est aussi un grand philosophe, un très grand philosophe, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le livre de la guérison », mais attention, ce qui n'est pas justement un ouvrage médical, c'est le « Kitab al-Shifa », qui est en fait une gigantesque paraphrase d'Aristote. Et dans la partie du « Kitab al-Shifa » consacrée à la physique et à la métaphysique, il développe sa théorie de la forme. Et on va s'apercevoir qu'elle est tout à fait conforme à l'idée qu'il énonce dans le canon. Je rappelle d'abord quelques évidences. C'est que, à la base, il y a l'idée d'Aristote que toute substance, toute chose, tout être est composé d'une matière et d'une forme. La tradition péripatéticienne, c'est-à-dire la tradition issue d'Aristote, élabore la notion de forme substantielle, la forme, pour préciser que c'est la forme qui va, quand elle est unie à la matière, donner la substance à la chose. Donc, on comprend que chez Avicenne, le terme de forme spécifique n'est pas employé au hasard, parce que la forme spécifique, c'est un cas particulier dans la doctrine générale des formes, de l'hylémorphisme, de l'union de la forme et de la matière. Ce n'est qu'un cas particulier, particulièrement étonnant, on pourrait dire, mais qui rentre dans cet ensemble, dans cette conception d'ensemble. Le problème, c'est qu'Avicenne a une conception bien particulière de la manière dont les formes sont données aux choses. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué, c'est que même si la base matière-forme est aristotélicienne, la théorie qu'Avicenne met en avant pour expliquer la façon dont la forme est donnée aux choses est-elle plutôt néoplatonicienne, néoplatonisante, voire néoplatonicienne. Pour Avicenne, ce qui donne la forme aux choses, c'est le donateur des formes, dator formarum. Le schéma proposé est le suivant. Il y a Dieu. Dieu, de Dieu émane ou procède la première intelligence. Cette première intelligence, de la première intelligence, émane une première triade, à savoir deuxième intelligence, l'âme motrice, motrice de quoi ? Eh bien de la troisième hypostase en l'occurrence, le premier ciel, le ciel cristallin. Alors j'ai mis à côté un schéma, mais qui n'est pas le schéma d'Avicenne, puisqu'il y a l'Empyrée, ça c'est typiquement chrétien, donc c'est pour vous illustrer la façon dont les... Et le processus se continue, vous le voyez, jusqu'à la dixième intelligence. Dixième intelligence, qui elle se situe dans la triade où se trouve le dernier ciel, celui de la Lune. Donc on est descendu de Dieu jusqu'à la Lune marquant la frontière entre le monde supralunaire, au-dessus, et le monde sublunaire, au-dessous de la Lune. Selon la pensée la plus... le monde supralunaire, c'est le monde de l'éternité, du mouvement parfait, du cercle. Le monde supralunaire, c'est le mouvement où les choses naissent et se corrompent, hein, un processus continu. Selon l'interprétation la plus courante de la pensée d'Avicenne, en particulier celle que retiennent les latins, c'est cette dixième intelligence qui se voit attribuer deux fonctions. Premièrement, transmettre aux âmes humaines leurs formes les formes intelligibles. Deuxièmement, transmettre les formes aux matières inférieures pour former les êtres sublunaires. En d'autres termes, cette dixième intelligence est à la fois celle qui forme les substances du monde inférieur et qui en assure l'intelligibilité par l'homme. Elle fait la chose et elle fournit en quelque sorte les concepts aux hommes. Le terme n'est pas adéquat. C'est à la fois donc un principe ontologique et cognitif. D'où les deux noms que la tradition attribue à la dixième intelligence, intellectagent ou donator formarum, donateur des formes, dator formarum, pardon, donateur des formes. Alors, je dis que cette tradition parce que il y a une quinzaine d'années, le spécialiste de philosophie Dag Hasse a dit qu'il faut être prudent parce que selon lui, l'identification du dator formarum avec la dixième intelligence ou intellectagent n'est pas si évidente chez Avicenne lui-même. Mais enfin, la tradition a retenu ce modèle, indéniablement. Alors, voilà donc le schéma général. Donc, vous avez, si vous avez suivi cette vaste reconstruction, on est parti là des médicaments, on est remonté jusqu'aux sphères, parce qu'effectivement, ça forme un tout. Hein. Donc, pour Avicenne, certains médicaments agissent non pas parce qu'ils sont chauds, froids, secs, humides, mais parce qu'ils ont la forme spécifique qui leur confère une propriété spécifique qui leur permet de faire telle ou telle chose. La rhubarbe a tiré l'humeur colérique, la scamonée aussi, ou l'aimant a tiré le fer. Et cela, ça rentre dans sa conception d'ensemble des rapports entre forme et matière. Chez Avicenne, donc, avec un arrière-fond néoplatonisant, hein, qui se greffe sur quelque chose d'aristotélicien, c'est un mélange un peu. Bon. Alors, c'est là qu'on arrive au monde latin, et on arrive à Albert le Grand. Albert le Grand, donc le grand savant, maître et ami de Thomas d'Aquin, qui a apporté une contribution très importante à la science médiévale, en particulier en écrivant le traité des minéraux, bon, ce n'est pas sa seule contribution, mais c'est une importante, le De Mineralibus. Dans l'un des livres de ce traité, il s'interroge sur le pouvoir des pierres, en particulier des gemmes. D'où vient le pouvoir merveilleux hein, que les lapidaires attribuent aux gemmes. Il y a toutes sortes de pouvoirs aux pierres. Il passe d'abord en revue quatre opinions qu'il attribue respectivement à Alexandre d'Aphrodisias ou d'Aphrodise, Platon, Hermès et Avicenne. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui des différentes opinions. Je vais m'arrêter sur celle qu'il attribue à Avicenne. Il écrit « Quant à Avicenne et certains autres qui la suivent, ils ont dit que dans toutes les choses naturelles apparaissent parfois des prodiges à partir de l'imagination des moteurs supérieurs. » Donc, il attribue l'opinion suivante à Avicenne, ce serait que Avicenne, on ne sait pas d'ailleurs très bien à quel texte il se réfère, hein, dedans, aurait attribué l'origine du pouvoir des pierres aux imaginations des intelligences, des fameuses intelligences motrices des sphères. Hein. Bon. Ce que Avicenne appelle les âmes motrices, c'est ça. Bon. Je comprends bien ce qu'il veut dire. Et au chapitre suivant, Albert Legrand, qui a donc énuméré quatre opinions sur l'origine du pouvoir des pierres, les réfute une à une. Il dit, sont fausses. Mais l'opinion avec laquelle il est le plus sévère, c'est l'opinion d'Avicenne. Voilà ce qu'il écrit. Alors, c'est difficile à rendre en français, mais les choses qu'Avicenne dit au sujet des prodiges paraissent être prodigieusement fausses. Je traduis comme ça parce qu'il joue en fait sur le terme prodigiosus prodigium. En effet, une imagination ne peut en aucune manière être attribuée aux intelligences célestes. Alors là, c'est un point sur lequel Albert Legrand insiste toujours. Hein. Les intelligences qui meuvent les sphères célestes sont juste des intelligences pour tourner ces sphères. Elles n'ont aucune autonomie intellectuelle, aucun affect, aucune imagination. Ça, c'est quelque chose auquel il tient. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'oppose à l'identification de ces intelligences motrices à un des ordres angéliques, alors que Thomas d'Aquin le fait. Et oui, ouais, c'est un des ordres des anges. Là, non, il ne veut pas. Ce sont des intelligences, mais voilà, elles exécutent simplement. Voilà. Bon, il y a plein de raisons qui pourraient expliquer pourquoi il tient. Non. Là, vraiment, il rejette avec la plus grande vigueur hein, l'opinion qu'il attribue à Avicenne. Alors, nous avançons. Vous allez voir où je veux vous conduire. Vient alors le chapitre où Albert Legrand donne sa position. Quelle est ma propre opinion, l'origine du pouvoir des pierres. Voilà ce qu'il écrit. « Toutes ces opinions ayant été réfutées, nous disons avec Constantin et certains autres que la vertu de la pierre est causée par l'espèce et forme substantielle elle-même de la pierre. » C'est curieux, ça nous rappelle quelque chose. Forme de l'espèce, de forme spécifique, là, exactement là. Donc, c'est des limites un peu étranges. D'un côté, il reconnaît, il reprend à son compte l'explication qu'aurait pu donner Avicenne sur les propriétés occultes, la forme spécifique, mais on voit qu'il ne l'attribue pas à Avicenne, il l'attribue à Constantin. De quel Constantin s'agit-il ? Ça ne peut être qu'un seul Constantin, c'est Constantin l'Africain, le pionnier des traductions de la médecine arabe, fin du XIe siècle, hein, en Italie du Sud. Et en l'occurrence, et là je suis l'hypothèse qu'avait fait Dorothy Vicoff, qui a fait une très belle traduction du Demeneraebus d'Albert Legrand, c'est en fait la traduction qu'avait fait Constantin l'Africain de Kousta ibn Luka, d'une œuvre de Kousta ibn Luka, un auteur chrétien nestorien du IXe siècle, qui avait écrit en arabe, le De Physicis Ligaturis, des amulettes médicales, pour traduire. En fait, si on regarde le traité d'abord, premièrement, il est antérieur à Avicenne, donc c'est sûr qu'il ne peut pas lui-même avoir développé cette théorie avicénienne. D'autre part, dans ce court traité, il n'y a absolument pas la formulation de cette doctrine. Donc, que dit le De Physicis Ligaturis ? Il énumère un certain nombre d'amulettes ou procédés un peu magiques Il dit qu'essentiellement, l'essentiel de leur pouvoir vient de la confiance du malade. C'est-à-dire que la confiance que le malade a dans cet appareil, c'est une sorte d'effet placebo avant la lettre, bon, le terme serait mal choisi. Voilà. Il évoque un peu des propriétés, mais c'est surtout là-dessus qu'il insiste. Mais il n'y a pas la définition, une définition s'approchant d'une façon ou d'une autre, ni de celle de Galien, ni de celle d'Avicenne. Donc, résumons. D'un côté, Albert le Grand rejette violemment une opinion qu'il attribue à Avicenne. De l'autre, il reprend à son compte une doctrine qui est vraiment d'Avicenne, mais qu'il attribue à Constantin. Pourquoi ce jeu de faux-semblants ? À mon avis, ce n'est pas un hasard. Hein. Alors d'abord, on va écarter tout de suite une hypothèse. L'hypothèse selon laquelle Albert le Grand n'aurait pas eu accès au canon d'Avicenne. Ça, c'est faux, puisque dans le De Mineralibus, il s'y réfère à plusieurs reprises. Donc, il faut écarter cette hypothèse. Donc, c'est sciemment qu'il se livre à ce petit jeu. En fait, mon hypothèse, après, vous n'êtes pas obligé de la partager, mais c'est l'hypothèse que je fais, c'est que Albert le Grand, qui est un homme fort intelligent, comme nous savons, connaissait en fait fort bien l'œuvre philosophique d'Avicenne, et ça on sait qu'il a eu connaissance de la métaphysique d'Avicenne. Hein. Il avait parfaitement compris que la notion de forme spécifique exposée dans le canon se comprenait chez Avicenne nécessairement en relation avec la doctrine de la forme substantielle conférée par le Dator Formarum. Il avait compris ce lien entre l'œuvre médicale et l'œuvre philosophique. Or, comme la plupart des latins, Albert le Grand refusait absolument la doctrine néoplatonicienne du Dator Formarum, du donateur des formes. Il s'agit donc pour lui, en quelque sorte, si mon hypothèse est juste, après on pourra la discuter, de garder la notion de forme spécifique pour expliquer les propriétés occultes des pierres, mais de rejeter la cause de cette forme telle que l'envisageait Avicenne. On garde la forme spécifique, mais on rejette le Dator Formarum. De quels indices je dispose pour oser une telle hypothèse ? Une preuve interne, la nature de l'opinion qu'il met dans la bouche d'Avicenne. L'imagination des intelligences célestes. C'est une manière de se référer d'une façon ou d'une autre au Dator Formarum. Sans complètement le dire, c'est un peu transformé, puis on ne sait pas de quelle chose il s'est servi, mais c'est une manière de se référer à une action directe des intelligences sur la matière. Une preuve externe, le lien entre forme spécifique et doctrine du donateur des formes est repéré chez un autre auteur, un célèbre commentateur du canon d'Avicenne, sur lequel mon collègue et ami Joël Chandelier a beaucoup travaillé, Gentile da Foligno. Ce médecin italien, mort de la peste en 1348, a laissé un commentaire important du canon d'Avicenne à propos de la définition avicennienne de la forme spécifique. Et voilà ce qu'il écrit. Et c'est pourquoi il faut remarquer que l'intention d'Avicenne, le but d'Avicenne, fut que le donateur de cette forme soit quelque chose d'extrinsèque, à savoir la dixième intelligence qu'il appelle donateur des formes. Il ne donne pas seulement les formes des mixtes et des simples, c'est-à-dire des éléments. Les éléments reçoivent aussi donateur des formes par leur mélange. Une forme et les éléments eux-mêmes se préparent à cela par leur mélange. Bon, je résume l'idée. Gentile ici dit de manière explicite que la forme spécifique d'où provient la propriété occulte du médicament est conférée, selon Avicenne, par la dixième intelligence appelée donateur des formes. Donc ce lien, Albert le Grand n'est pas le seul à l'avoir perçu. Or, tout comme Albert le Grand l'avait fait avant lui, Gentile da Foligno rejette la doctrine du Dator Formarum et conserve la forme spécifique. Mais il replace la doctrine du forme spécifique dans un cadre qui lui convient. Un cadre plus aristotélicien, plus compatible avec le péripatétisme, c'est ce qu'on lit dans ces lignes. Mais selon Aristote, c'est le même agent qui donne la forme et qui prépare la matière. Et ainsi, parce que selon lui, aucun élément ne donne la forme, c'est pourquoi à partir du mélange des éléments est engendré par la sphère céleste, par la planète, une certaine chaleur selon une mesure déterminée parce que cela digère et mélange les éléments et induit la forme, et de ce mélange et proportion résulte la forme spécifique. Donc, ce que nous dit façon un peu compliquée, Gianella Foligno, c'est que dans le modèle aristotélicien, la cause directe de la forme, c'est le corps céleste qui va, par son action, faire se produire cette forme, alors soit par le mouvement, soit par sa chaleur, etc. Et il rejette, en revanche, l'idée d'une action directe de l'intelligence sur la matière. Donc, pour récapituler, voilà ce qui se passe. Les premiers enseignements qu'on peut tirer. Pour Avicenne, il y a donc le donateur des formes. Ce donateur des formes confère directement la forme spécifique. D'où vient la propriété occulte. Et c'est très abstrait, mais au bout du compte, c'est très concret. C'est ce qu'on constate. Le morceau de fer attiré par l'aimant. Bien. Excuse-moi. Que font les latins? Ils gardent la forme spécifique. Ils rejettent le donateur des formes. Et ils substituent au donateur des formes le corps céleste pour entrer dans un cadre plus conforme à l'esprit d'Aristote. Alors, le rejet du donateur des formes tient peut-être à des raisons théologiques. C'était l'hypothèse du père James Whitechapel, mais moi, je n'argumenterai pas là-dessus parce que ça demanderait vraiment des vérifications. On se contentera de dire ici que les auteurs scolastiques latins du XIIIe siècle avaient fait le choix délibéré du modèle aristotélicien. Alors, aristotélisme, certes, très impur. On sait bien qu'il y a des tas d'inflexions, qu'il y a toutes les traditions des commentaires grecs et arabes qui avaient donné des inflexions néoplatonisantes par-ci, par-là. Mais quand même, un ancrage plus nettement aristotélicien que ne le proposait le modèle d'Avicenne. Les auteurs latins ont donc conservé d'Avicenne la forme spécifique, qui était indispensable pour expliquer les propriétés qu'on ne pouvait pas expliquer autrement, puisque ça ne marchait pas, le jeu du chaud, du froid ne marchait pas. Mais ils ont rejeté le dator formarum, ils ont découplé les deux notions et ont inséré la forme spécifique dans un modèle qui était effectivement plus compatible avec la vision philosophique du monde tel qu'il la voyait, tel qu'il la souhaitait. En somme, les latins ont sélectionné au sein de la science arabe, c'était le premier point que je voudrais faire comprendre, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils souhaitaient en fonction de leur propre vision du monde. C'est très important de bien voir, de bien garder cela. Il y a cette idée d'un choix, d'un jeu d'autorité, mais c'est eux qui tiennent les cartes, en quelque sorte. Ils ont les cartes en main, ils jouent les cartes qu'ils veulent, en fonction de ce qu'ils veulent démontrer. Alors j'en viens maintenant à mon deuxième exemple, Averroès, l'autre grande autorité, Averroès. Alors, je n'insiste pas sur les généralités autour d'Averroès, grand philosophe et médecin andalou. Il est devenu le protagoniste d'un mythe médiatique qui voudrait qu'il ait été le chantre de la tolérance, que bien entendu il n'a jamais été, sauf dans l'esprit de quelques journalistes et de quelques politiciens que je qualifierais de peu compétents pour ne pas être trop méchant. Reste qu'il s'agit, bon, c'est pas du tout un chantre de la tolérance, absolument pas, hein, mais c'est un philosophe majeur. Un philosophe majeur, c'est le commentateur par excellence de l'œuvre d'Aristote pour les latins, qui le désigne souvent sous le nom de commentator, hein, le commentateur. Et sa fortune posthume est du reste beaucoup plus importante chez les latins qu'en islam, ce qui explique qu'une partie de ses œuvres, et notamment son grand commentaire de la physique d'Aristote, ne soit plus disponible, ne soit plus conservée qu'en latin et en hébreu, mais plus en arabe. Donc c'est presque devenu en quelque sorte un philosophe latin, du point de vue linguistique, plus latin qu'arabe, de cette manière. Les débats philosophiques et théologiques qu'ont suscité certaines de ces thèses chez les latins, problème bien connu, je ne vais pas en parler, ce n'est pas ça que je vais parler, je vais prendre quelque chose de très très neutre, l'attraction magnétique, qui n'a pas suscité des débats violents, des interdictions, je ne sais quoi, c'était très très... Voilà. Je vais me concentrer donc sur cet exemple, partir de l'aimant. Alors, Aristote, dans la physique, donc la physique, très important évidemment pour la philosophie naturelle, dans la physique, Aristote ne fait allusion à l'aimant que brièvement et indirectement au livre 8, à propos d'anneaux, mais en fait, ce n'est pas du tout l'action à distance de l'aimant qui l'intéresse, et puis c'est tout à fait accessoire. Ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas le tout le point de départ de discussion sur l'aimant au Moyen-Âge, ce n'est pas ça. Le vrai point de départ de discussion sur l'aimant au Moyen-Âge, c'est essentiellement le livre 7, accessoirement un peu le livre 8, mais surtout le livre 7, et c'est en fait Averroès qui est le point de départ de discussion de l'attraction magnétique. Le commentaire d'Averroès, le grand commentaire d'Averroès à la physique d'Aristote. Au livre 7, Averroès aborde cette question à propos de l'axiome aristotélicien « Tout ce qui est mu est ensemble avec son moteur ». En gros, là, ce verre ne se déplace que parce que ma main est constamment en contact avec le verre. Et il en parle aussi au livre 8 à propos du mouvement des éléments. Il compare le mouvement des éléments et le mouvement de l'action magnétique, mais le livre 8, c'est pas vraiment le lieu des développements. C'est surtout le livre 7 qu'ont retenu les commentateurs latins. C'est le passage fondamental. Alors, du reste, Averroès, dans son explication, n'invente rien. Hein. Il s'inspire déjà, alors directement, indirectement, ça pourrait discuter, de travaux antérieurs, de commentateurs antérieurs, Jean Philopon, philosophe grec du VIe siècle après Jésus-Christ, et Ibn Bajjah, connu en latin sous le nom de Avem Pace, ou avant Avem Pace, philosophe arabe mort, qui est un petit peu antérieur à la génération d'avant, Averroès. Alors, voilà donc le point de départ, c'est l'axiome aristotélicien de la contiguïté, livre 7. Alors, je vous donne la traduction de Pierre Pellegrin. Le moteur premier, non pas au sens de ce en vue de quoi, mais au sens de ce d'où part le principe du mouvement, est ensemble avec ce qui est mu. Par ensemble, je veux dire que les choses n'ont rien entre elles. Il n'y a rien entre ma main et le verre. Si ça se déplace, c'est constamment comme ça. Le problème que pose Averroès, mais qu'avait déjà posé Philopon avant, et avait déjà posé Ibn Bajjah, et bien d'autres, c'est l'exemple de l'aimant. L'aimant et le fer, ils ne sont pas ensemble. Et pourtant, le fer va bien vers l'aimant. Donc voilà une action apparemment à distance, inexplicable, en première analyse, si on se réfère à cet axiome de la contiguïté, de la nécessaire contiguïté entre le moteur et ce qu'il meut. Alors, comment résoudre sur cette question? La réponse d'Averroès est assez simple. Il dissocie l'aimant de la vertu magnétique. Il dit, bon, l'aimant est bien à distance du fer, mais en fait, le moteur, c'est-à-dire ce qui meut, le morceau de fer, c'est la vertu magnétique. Et la vertu magnétique, elle est bien en contact avec le fer. Donc il n'y a pas de distance entre la vertu magnétique et le fer. On retrouve le cadre aristotélicien. On retrouve la contiguïté, le contact. D'accord. Le moteur, donc la vertu est bien là, mais l'explication est un peu incomplète, parce qu'évidemment, comment la vertu magnétique est arrivée de l'aimant au fer? Alors, dire qu'Averroès n'en parle pas, ce serait faux. Au livre 8, il fait une brève allusion, il dit « C'est une altération qui se fait mediante aere ». C'est quand même très, très flou. Mediante aere, par l'intermédiaire de l'air, via l'air, bon, c'est pas, il n'y a pas grand-chose. Alors, par ailleurs, si on regarde d'autres exemples, l'idée, en fait, Averroès avait la solution de Philopon et d'Ibn Bajjah, qui est celle que vont développer les latins, était très claire. Il était évident qu'il avait de la solution en tête, mais c'était implicite. Et puis, il y a d'autres exemples d'actions à distance qu'il développe, notamment dans le livre du commentaire du ciel. Donc, il n'y avait pas un mystère, mais c'est vrai que tel quel, dans le livre 7, ben, il n'explique que la dernière phase. Il n'explique pas tellement comment on va de l'aimant au fer, même si on pouvait, à travers l'œuvre d'Averroès, retrouver les éléments qui permettaient de le compléter, d'expliciter ça. Alors, c'est ce que font les latins. Du reste, les latins vont tout à fait expliciter cette première phase, mais grâce à... Ce n'est pas très difficile d'y arriver, mais enfin, ils ont mis ensemble les éléments que donnait Averroès pour essayer de réexpliciter. C'est ce que fait Robert Grosstete, le premier commentateur, peut-être, de la physique d'Aristote. Alors, le commentaire, c'est en deux temps. Il a d'abord fait une première version de ce commentaire dans les années 1220, et puis il a repris pour les deux derniers livres dans les années 1230, après avoir eu connaissance du grand commentaire d'Averroès, d'Averroès à la physique. Et donc, voilà ce qu'il écrit. Et ainsi, À propos de l'aimant qui attire le fer, il faut dire que l'aimant d'abord modifie l'air, qui, une fois modifié, modifie le fer. C'est quand même plus explicite, ce n'est pas le médian TR rapide. Là, au moins, on voit bien ce qui se passe. C'est-à-dire que là aussi, on réintroduit de la contiguïté. Hein? Donc, l'aimant va donc altérer l'air qui est juste à côté, contact, c'est en contact. Hein? Et puis, cet air altéré va donc altérer, à son tour, le morceau de fer. Et on le comprend bien que comme il y a beaucoup d'air, on comprend que c'est de proche en proche. C'est-à-dire que on déduit, ce n'est pas difficile à dire, c'est-à-dire que l'air magnétisé, le terme n'est pas, va magnétiser l'air voisin, qui va magnétiser l'air voisin, et puis voilà, on va arriver au morceau de fer. Donc il n'y aura pas d'action à distance, qui serait impossible dans l'univers aristotélicien. Il y a bien un contact à chaque moment entre moteur et mu. Albert Legrand, dans son commentaire de la physique, explicite dans la même direction. Et du reste, c'était la solution sous-entendue par Averroès, hein, même si ce n'était pas explicite, c'était vraiment sous-entendu. Hein. Et ce mouvement est aussi de telle sorte que le moteur est conjoint avec son mobile, qui est mu par lui, parce que la vertu de la pierre d'aimant est diffusée, voyez, non, diffusée dans le milieu intermédiaire jusqu'au fer, et inversement aussi, cette vertu qui touche le fer est son moteur immédiat. Donc on a explicité ce processus. Donc là, voilà le modèle, donc, le modèle qui se diffuse, qui se développe, qui se précise dans les propres termes, hein, de la science latine. Et donc c'est ce texte de la physique d'Aristote, qui était donc commenté la faculté des arts des universités, donc des commentaires très intéressants à Oxford au XIIIe siècle, puis à Paris, et notamment les commentateurs parisiens du tournant du XIIIe au XIVe apportent, précisent, posent de nouvelles questions, et notamment, pose cette question, mais qu'on retrouve dans d'autres commentaires. C'est une question caractéristique de cette période. Tu diras, si l'aimant altère l'intermédiaire, et au moyen de l'intermédiaire, n'altère le fer que parce que d'abord, il altère l'air intermédiaire. Il doit attirer l'air comme il attire le fer. Et Alexandre d'Aphrodisias dit au premier livre des météorologiques que si quelque chose agit sur l'extrémité à travers l'intermédiaire, il lui faut agir sur l'intermédiaire avant d'agir sur l'extrémité. Donc le problème qui est posé est le suivant. Si on dit que l'aimant n'attire le fer que parce qu'il altère l'air, pourquoi l'air n'est pas attiré par l'aimant? Problème qui est posé. Alors, la présence de Alexandre d'Aphrodise des commentaires météorologiques n'est pas un hasard. Hein. C'est un texte qui a été traduit vers 1260 par Guillaume de Morbecque à partir du grec et qui, à mon avis, a influencé justement cette question. Tous les commentaires parisiens évoluent à cause de cette traduction du grec. La réponse est apportée par le commentaire lui-même. Parce que l'intermédiaire et le fer ne sont pas de même nature, en raison de la différence de nature du récepteur, l'aimant ne produit pas la même attraction dans l'intermédiaire et dans le fer. Et donc, il ne faut pas dire que s'il altère le fer vers quelque disposition par laquelle il est mu vers l'aimant, qu'à cause de cela, il altère l'air, parce que la disposition par laquelle le fer est attiré vers l'aimant ne se trouve pas dans l'air intermédiaire, mais dans le fer. Bon, on dit clairement, l'air n'est pas prédisposé par nature à être attiré par l'aimant, le fer est prédisposé par nature à être attiré par l'aimant. Donc, il y a bien dans les deux cas une altération, mais on dirait aujourd'hui, les deux milieux ne réagissent pas de la même façon. Donc l'air va transmettre cette vertu, mais ne va pas réagir par une attraction. En revanche, elle transmet un pouvoir qui, une fois arrivé dans le fer, là, le fer lui réagit parce que par nature, il est attiré par l'aimant. Donc c'est une différence de prédisposition qui explique une différence de réaction de l'air et du fer. On voit déjà que question se pose, des solutions comme ça s'ébauchent, qui est caractéristique du travail de la scolastique latine. Hein. Il faut, pour percevoir les changements, c'est un travail très patient, il faut prendre tous les commentaires, le plus de commentaires possible, suivre les grands, suivre les moins grands, et souvent, c'est des petits glissements qui se mettent à changer et à modifier le modèle. Le point d'aboutissement de cette explication se situe vers le milieu du XIVe siècle, avec de grands noms de la physique
parisienne, Jean Buridan et Albert de Saxe. Jean Buridan et Albert de Saxe ont parachevé ce modèle en utilisant une doctrine provenant de l'optique, ou la perspectiva, qui est un peu plus large que l'optique, mais on traduit optique. En l'occurrence, la personnage clé est un franciscain du XIIIe siècle, Roger Bacon, qui, en quelque sorte, donne toute sa force à la doctrine de la multiplication des spéquesses, doctrine qu'il n'invente pas vraiment, mais donc c'est lui qui lui donne la formulation la plus complète. Les sources sont intéressantes pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, puisque ces sources sont très diverses. Saint Augustin, père de l'Église latine, l'un des pères de l'Église latine, Ibn Gemirol, juif andalou, écrivain en arabe, Al-Kindi, grand philosophe arabe, Al-Hassen, grand théoricien de l'optique arabe dont les travaux ont été fondamentaux pour l'histoire de l'optique latine, des quasi-contemporains latins, Robert Grosstedt, Alexandre de Halès, Robert Kirwabi. La doctrine des multiplications des spéquesses sort un peu de tout ça. Alors là, ce n'est pas moi qui ai remonté les sources, ce sont les spécialistes, c'est Lindbergh et quelques autres qui ont remonté ces différentes sources. Qu'est-ce que c'est que cette théorie de la multiplication des spéquesses? Elle explique la perception. Là aussi, il s'agit d'une question de distance. Il y a l'œil, il y a la bouteille, ici la pomme. Bon. Ce que nous dit cette doctrine, c'est que chaque objet émet autour de soi, de façon orbiculaire, des simulacres de lui-même, simulacres qui se multiplient, et lorsque le simulacre, selon une certaine direction, atteint la pupille de l'œil, l'œil le perçoit. Alors, c'est intéressant, ces simulacres sont appelés spéquies, terme qu'il ne faut pas traduire. On garde spéquies. Ces spéquies ont un statut particulier. Ce ne sont pas, ces spéquies ne sont pas en elles-mêmes matérielles. Elles sont immatérielles, mais elles tirent leur matérialité de l'air dans lequel elles se multiplient. Et cette doctrine de la multiplication des spéquies, qui était conçue originellement pour expliquer la perception, se trouve diffusée au XIVe siècle, pour expliquer toutes sortes de choses. C'est-à-dire que ça sort du domaine de l'optique et ça se met à expliquer toutes sortes de choses dans le domaine de la cognition, ailleurs, etc. Et ça finit par atteindre la question de l'attraction magnétique. Et ça, bien que Roger Bacon ait ébauché cette application, mais seulement ébauché dans différents endroits de son œuvre, c'est bien Jean Buridan et Albert de Saxe qui, véritablement, sont les premiers vraiment à promouvoir un modèle cohérent qui applique cette doctrine de la multiplication des spéquies à l'attraction magnétique. Voilà ce qu'écrit Albert de Saxe. L'aimant multiplie près de soi sa vertu, son pouvoir, mais celle-ci, en raison de la disposition et de la complexion du fer, est motrice du fer vers l'aimant et non de l'air. Avec cela, il établit cependant qu'il ne multiplie une vertu jusqu'au fer qu'en la multipliant à travers tout l'intermédiaire, d'où universellement il faut imaginer, selon ce qu'imagine Al-Kindi, que chaque chose émet par rayonnement et multiplie près de soi une certaine spéquies spirituelle et insensible, au moyen de laquelle, dans tel sujet et dans tel autre, suivant qu'il est disposé de telle ou telle manière, elle produit telle qualité et telle autre. Alors si vous suivez bien ce qui est dit, c'est une manière d'expliciter le problème que posaient les commentaires parisiens, c'est-à-dire pourquoi l'air n'est pas attiré et le fer, oui. Eh bien parce que, vous voyez, c'est toujours bien, il y a une prédisposition différente, mais cette prédisposition, c'est aussi explicitée par une doctrine très précise, qui est celle de la multiplication des spéquies. Et c'est en fait le parachèvement de ce modèle originellement d'Averroès, mais qui là, c'est une réponse originale dans le monde latin. Alors, c'est globalement, c'est vraiment l'explication qui devient l'explication, on dirait aujourd'hui, classique, à partir du milieu du milieu du XIVe siècle. Alors évidemment, il y avait d'autres, il y a des francs-tireurs de l'explication. On pourrait parler d'Occam, qui lui admet l'action à distance, mais qui est complètement, qui a une position totalement marginale dans cette affaire. Hein, mais là, c'est vraiment la position dominante. Cette doctrine des Spéciès, en fait, a triomphé pour l'explication magnétique parce que c'était l'outil qu'il fallait pour compléter le modèle tout en restant dans le cadre péripatéticien. Je m'explique. Les Spéciès ont un double avantage. Elles sont immatérielles. Donc ce ne sont pas des corpuscules, ce ne sont pas des atomes et on ne bascule pas dans l'atomisme. Parce qu'évidemment, le modèle aristotélicien n'est pas compatible avec l'atomisme. Bien. Ce sont les éléments constituants, c'est les quatre éléments. Point. Ce ne sont pas les atomes. Donc c'est le premier avantage. Elles sont immatérielles, mais d'un autre côté, la Spéciès tire une forme de matérialité du médium de l'air qu'elle traverse. Donc, ce n'est pas seulement une action strictement spirituelle, ce qui ne cadrerait pas non plus avec Aristote, parce qu'Aristote, pour qu'il y ait une action, il faut bien qu'il y ait deux corps qui rentrent en contact. Donc, c'est très commode. C'est corps et c'est pas corps, vous voyez. Ça permet donc, ça offre toutes les garanties, tous les avantages pour parachever et respecter l'axiome de la contiguïté d'Aristote. C'est l'outil parfait. C'est l'outil parfait. Et donc, c'est l'aboutissement de la théorie médiévale du magnétisme. Alors, pour revenir au sujet qui m'intéresse, on peut tenter le schéma, vous voyez, de la genèse de cette théorie. Alors, je me suis amusé à mettre des couleurs différentes, vous voyez, violet pour le grec, vert pour arabe, bleu pour le latin. Vous voyez, bon. On voit que il y a deux directions. Donc, à l'origine, il y avait Jean Philopon, qui a manifestement formulé peut-être l'un des premiers modèles de cette théorie magnétique, qui aurait inspiré directement sur le problème de savoir Ibn Bajjah. Cela inspire Averroès, qui est l'introducteur de ce modèle pour les latins. Mais les latins vont le parfaire à travers la théorie de la doctrine des Spéciès, qui tire ses origines de différentes sources, des sources de langue arabe, Al-Kindi, Al-Azen, mais des sources aussi latines, Augustin, etc., toutes les sources qu'on a vues. Synthèse faite par Roger Bacon, théorie optique de la magnétisme des Spéciès, et l'ensemble aboutit au système proposé par Jean Buridan et Albert Zagor. Évidemment, c'est très schématique, mais c'est pour montrer la complexité un peu de cette transmission. Je termine donc en indiquant ce qu'on peut en tirer dans le domaine de la philosophie naturelle sur la signification et les enjeux de cette transmission. Si on fait la synthèse un peu de ce qui est dit, ces deux exemples révèlent ce qui me semble être les principaux traits de cette transmission. D'abord, qu'est-ce qui est transmis ? Les Latins, on le voit, n'ont pas emprunté au monde arabe ce qu'il y avait de plus spécifiquement culturel au sens socio-anthropologique du mot. Ce n'est évidemment pas la religion musulmane qui les a intéressés, prioritairement, sauf à début de polémique, comme le rappelait Sabine ce matin. Ce sont des évidences, mais il faut les rappeler. Ce qui a été transmis, ce sont des concepts scientifiques, philosophiques, universalisables. C'est ça qui est transmis. Deuxièmement, l'origine de cette transmission, et cela a été rappelé ce matin aussi, est à rechercher dans le dynamisme propre à l'Occident latin du XIIe siècle, dans le cadre d'un essor à la fois géopolitique, donc la Reconquista qui avait commencé avant, les croisades aussi qui avaient commencé avant, l'essor intellectuel, ce qu'on a parfois appelé la Renaissance XIIe siècle depuis Haskins, avec la multiplication des écoles urbaines, l'essor de la dialectique, etc. C'est parce que l'Occident, cela a été aussi rappelé par Marc Moyon et Sabine Rambeau ce matin, c'est parce que l'Occident était en plein essor qu'il a pu aller chercher ses textes scientifiques, grecs et arabes. Troisièmement, la façon dont les Latins se sont appropriés et ont utilisé et fait fructifier ces textes, c'est ce que j'ai vu dans ces deux exemples, me semble assez évidente dans les deux exemples donnés, c'est que on voit qu'ils sélectionnent ce qui va dans le sens de leur propre projet intellectuel. Nous l'avons vu avec l'exclusion du donateur des formes. D'autre part, ils travaillent les modèles, les modifient, les remodèlent selon leur propre vue, ce qu'on a vu avec l'attraction magnétique. Donc c'est une transmission, réinvention, réélaboration. Rappelons que le XIIIe siècle de la scolastique est à la fois celui où ces textes scientifiques grecs et arabes sont assimilés, mais c'est aussi le siècle où les théologiens fixent avec une précision sans précédent les contours de la doctrine chrétienne, la délimitation stricte du licite et de l'illicite, ce que Jacques Le Goff avait appelé la mise en ordre scolastique. N'oublions pas que c'est le moment où Thomas d'Aquin rédige sa somme de théologie. Il n'y a là aucune contradiction. L'utilisation des sources arabes par les latins a donc été une utilisation, c'était le titre de ma communication, dynamique, maîtrisée, au service de leur propre vision du monde. Je vous remercie.
Alors.
Donc, merci beaucoup, Nicolas. C'était formidable, c'était clair. En plus, l'introduction est très saine du point de vue épistémologique, mais elle précédait ce qui venait ensuite, c'est-à-dire une démarche fondée sur le texte, un commentaire très serré, très érudit. Alors, il y a une question d'abord sur le néoplatonisme et sa réception, parce que c'est un sujet que je connais mal. C'est sûr qu'il y a une réticence sur laquelle vous avez insisté à l'égard du néoplatonisme qui doit remonter à la Cité de Dieu d'Augustin, puisqu'il y a une critique très serrée de Porphyre, parce que c'est le versant païen du néoplatonisme. Mais en même temps, vous avez dans la tradition latine, et là vous pourrez m'éclairer, le Scot Erigène, donc le pseudo-Denis, la hiérarchie céleste, vénérée au monastère de Saint-Denis. Et puis vous avez aussi la tradition biblique à partir de Plotin. Donc comment se fait-il que, si j'ai bien suivi, il y avait comme une sorte de réticence à accepter la théorie une des théories, parce qu'elle était d'origine platonicienne, et c'est par attachement strict à l'aristotélisme le plus dur. Et alors, en partant de là, je me demandais, le donateur des formes, s'il le rejette aussi, s'il est rejeté, c'est aussi peut-être en raison du problème de l'éternité du monde, puisqu'Aristote affirme que la matière préexiste à tout le reste. Donc le donateur des formes serait une sorte, oui, la divinité ne serait là que pour donner des formes à une matière préexistante. Ça, je n'ai pas très bien compris. Et puis après tout, et pour revenir au néoplatonisme, Thomas d'Aquin lui-même, quand il parle de la théorie de la participation, tout être participe de Dieu. Il y a aussi beaucoup de néoplatonisme, c'est presque de l'émanationnisme, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque c'est plus subtil. Mais voilà, c'était un certain nombre de questions que je me posais, surtout par rapport au néoplatonisme. Voilà, c'était juste...
Je vous remercie. En fait, ce n'est pas que le christianisme rejette le néoplatonisme, c'est une question de période, tout simplement. C'est-à-dire qu'au XIIe siècle, c'est le platonisme qui domine. Un platonisme sans Platon, puisque de Platon... Les médiévaux ne connaissent qu'un fragment du Timée, traduit par Chalcidius. Donc c'est un platonisme indirectement connu par les glosses sur Macrobe, etc. Hein. Et c'était au XIIe siècle. Mais à partir du moment où Aristote est traduit, c'est Aristote qui, dans l'université, devient la référence pour la science. Donc c'est une question de période. Le platonisme en tant que tel n'est pas plus ou moins compatible avec le christianisme. On pourrait dire même par certains aspects peut-être plus compatible. Même, hein. Bon, c'est vraiment une question de période. C'est que où nous sommes au XIIIe siècle, et les auteurs sont en train de faire une synthèse, pas purement aristotélicienne, aristotélisante, évidemment, oui, chez Thomas d'Aquin, il y a plein d'influences, et c'est un aristotélisme très, très impur, très impur. Mais disons que la question de l'auteur des formes, ça, c'est vrai, c'est quelque chose que les auteurs latins ne reprennent pas généralement, hein, alors, non, parce que ça ne cadre pas avec le projet qui s'est construit autour de l'utilisation de l'aristotélisme au XIIIe siècle, à mon sens. L'exemple que donnait Weishaupt, du rejet de donateur des formes. Alors, c'était sa théorie. Moi, je n'ai pas de lumière particulière et je n'ai pas eu le temps de relire l'article, donc je le donne de mémoire. c'était, il pensait que ce n'était pas compatible avec le libre arbitre. Mais là, il faudrait regarder de près, parce que le père Weishapel avait aussi ses vues très personnelles aussi, de temps en temps. Donc, ce n'est pas obligatoirement, obligatoirement juste. Mais disons, voilà, non, c'est pas tellement le rejet du platonisme en soi, c'est simplement, dans la période donnée, c'était le modèle que les latins ont voulu promouvoir à l'université. Voilà, merci.
Alors, du coup, une petite question qui en fait fait écho à ce qu'on a dit ce matin. Est-ce que, bon, pour ce qui est des applications de la forme spécifique en médecine, bon, tu les as évoquées. En revanche, pour ce qui est des potentielles applications de la théorie, enfin, application, peut-être pas directe, mais enfin, du lien avec une utilisation concrète de l'aimant dans des processus techniques. Est-ce que dans les textes que tu... Bon, enfin, il y a des trucs très évidents, évidemment, boussole, mais bon, d'autres choses aussi. Est-ce que tu... Les textes théoriques là, que tu as cités évoquent... Ou, parce qu'il y a quand même il y a des traités plus pratiques, en fait, autour de l'aimant, ou est-ce que vraiment, c'est pas du tout cette question qui se pose et ils n'en parlent jamais ?
Il y a un gros clivage, hein, mais là, Sabine Rombeau a trouvé un texte qui fait mentir ce clivage. Mais c'est vrai, évidemment, tu fais allusion à la lettre sur l'aimant de Pierre de Maricourt au XIIIe siècle, donc qui est un texte tout à fait exceptionnel, parce que c'est un des rares exemples d'expérimentation au sens moderne du terme, mais qui est un texte extra-universitaire. C'était fait par l'ingénieur Pierre de Maricourt au siège de Lucera, donc dans les années 1260. Et en fait, ce traité ne donne pas d'explication au sens scientifique du terme. Il décrit. Il dit, voilà, ça fait ceci, ça fait cela, ça fonctionne comme ça. Il décrit les boussoles, d'un côté. Et de l'autre côté, il y a la discussion sur la recherche scientifique au sens médiéval du terme, donc la recherche y compris avec tout ce que ça suppose de réflexion sur l'ontologie dans les commentaires de la physique. Et il n'y a pas d'intersection parce que ce sont deux types de questionnements différents. Je crois que Samuel Rombaud va trouver un texte, un commentaire où il était fait allusion à ces découvertes de Pierre de Maricourt, mais dans les commentaires de la physique, ce sont des univers, je pense, assez étanches, en fait.
Une question de détail, tu peux revenir sur ton stéma, enfin ton diagramme de source là. Mais c'est vraiment du détail. Pourquoi tu n'as pas mis de ligne de flèche verte entre Al-Kindi Ibn al-Haysam et Ibn Rushd? C'est sur la question précise de l'attraction magnétique.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. En haut, tu as le modèle de l'explication magnétique. En bas, tu as la théorie optique de la multiplication des spékès.
Okay.
Donc c'est la genèse de deux doctrines. C'est pour ça que c'est deux schémas séparés.
Merci pour cette superbe présentation qui, par moments, donne un petit peu le vertige, mais même si on comprend bien le processus. Ce matin, on parlait de traduction, de jeu d'équivalence approximative. Là, on est passé dans une autre démarche, puisqu'on est dans une forme d'adaptation ou de remodelage, où ce qui compte, c'est la plasticité de la pensée occidentale par rapport aux données de la pensée arabe. Et vous montrez bien que finalement, en matière de source, rien ne coule de source. Hein. Tout prend des voies très, très indirectes. Alors, la question que je me pose, c'est une question tout à fait naïve, qui va peut-être un tout petit peu dans le sens de la précédente. Je me demandais si ces théories du magnétisme jouent un rôle paradigmatique et sont non pas dans le sens de leur application directe, mais dans le sens d'un support à une pensée qui serait exportable à d'autres domaines. Et je m'interrogeais, puisque un petit peu influencé par les discours qu'on a entendus durant la semaine, hier matin, on avait un double discours d'épigraphiste et d'héraldiste sur la théorie du signe médiévale. Je me demandais si, par exemple, ces théories des spékies, de l'attirance, pouvaient être d'une part savoir, question générale, exportable à un autre domaine ou pouvait influencer un autre champ de pensée. Et plus précisément, je me demandais si dans la théorie du signe, il pouvait y avoir une exploitation de cet élément-là dans le rapport du mot et de la chose, par exemple.
Alors, il y a une chose, la théorie, la médiation des spékès, oui, elle s'est diffusée partout, puisqu'en fait, elle est importée dans le débat, dans le problème de l'attraction magnétique. On peut dire qu'elle se répand absolument partout au XIVe siècle. Elle devient l'instrument d'explication, hein, notamment pour toute action à distance. C'est-à-dire, y compris quand on veut expliquer de façon naturaliste le mauvais œil, la vieille bonne femme qui va lancer un sort, hein, etc. On a des questions de ce type-là, hein, donc avec des questions de voilà. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un homme qui est au milieu, mais quelle vie celui qui est après, est-ce que celui qui est avant, il y a ce genre de questions, hein. Donc c'est ces questions, oui. L'aimant en tant que tel, évidemment, est un exemple paradigmatique qu'on trouve dans tous les domaines, voilà. La diffusion précise de cette explication de l'aimant ailleurs, je sais, ce serait difficile de savoir, parce qu'au fond, il emprunte son explication au fond au domaine de l'optique, là, pour parachever, on ne saurait plus exactement si c'est vraiment l'attraction magnétique en tant que telle ou l'ensemble des actions à distance qui se répandraient dans d'autres domaines. Mais vous pensiez à quel domaine en particulier ?
Très, très naïvement, c'est une vraie question. Mm-hmm. C'est une question d'ignorant. Donc.
Non, mais c'est... Ce serait effectivement à voir. Je pense indéniablement, c'est une doctrine qui se banalise. Donc, ce serait intéressant, par exemple, de chercher des échos dans le domaine littéraire, par exemple. Ce serait pour être intéressant, effectivement, puisque c'est un exemple sans choisir. Il y avait un article qui est paru sur le rôle de l'aimant dans la littérature, l'aimant, l'amant, évidemment, avec le jeu auquel on peut s'attendre. Mais avant, je n'ai pas regardé si vraiment cette doctrine elle-même, précisément, aurait été traduite de façon littéraire, ou si c'est simplement l'idée générale d'une attraction qui était. Plus probablement retenu.
Oui, on trouve de nombreuses actualisations, notamment dans le roman de Flamenca, le roman occitan de Flamenca, de ce jeu aimant-amant. Mais c'est vrai que je ne l'ai jamais envisagé autrement que sur le plan élémentaire de l'attraction première. Mais évidemment, à la lumière de ces discours, on pourrait imaginer qu'il y a là-dessous beaucoup plus. Et je pensais évidemment à la théorie du signe. Est-ce qu'il y a aussi un rapport à distance entre un mot et une chose, quoi, qui passe par un intermédiaire, hein, par le verbum mentis, selon Augustin, ou dont on retrouve, si vous voulez, une incarnation dans les théories modernes de la linguistique, hein, avec le concept chez Saussure.
Du moins, Buridan, qui s'est beaucoup intéressé à la théorie du signe, lui ne fait pas ce rapprochement dans les commentaires de la physique, mais il n'y aurait pas lieu de le faire non plus à cet endroit-là.
Juste sur ce point, il me semble, mais alors là, il faudrait que Aurélien Robert soit là pour en parler, mais il y a un poème de Guido Cavalcanti qui s'appelle Donna me prega, un poème d'amour, qui date des années de la fin du XIIIe siècle, qui a été commenté par un médecin et philosophe naturel italien qui s'appelle Dino del Garbo, donc mort en 1327, et dans son commentaire, donc de mémoire, pour expliquer en fait l'attirance et la fascination amoureuse, il me semble qu'il fait référence à cette théorie des spékès, parce qu'il fait un commentaire naturaliste en expliquant les processus physiologiques à l'œuvre au sein du corps de la personne qui tombe amoureuse de cette jeune femme. Donc il faudrait vérifier, mais il me semble qu'il y a vraiment une explication naturaliste. Enfin, c'est Nardi qui avait étudié ça, mais Aurélien a repris la question. Et donc là, voilà un exemple, hein, typique. Alors, je ne crois pas que c'est l'aimant en tant que tel, c'est plutôt la spékiesse de la femme qui se multiplie tout autour d'elle. Et l'homme, ayant une prédisposition à tomber amoureux, est imprimé et frappé par cette femme. Et donc, son corps, du coup, il tombe malade, etc. Enfin, il lui arrive toutes sortes de choses horribles à son corps parce qu'il est bouleversé par cette spékiesse. Donc, je crois bien que c'est la théorie des spékiesses dans ce cas-là. En tout cas, c'est tout à fait similaire.
C'est pas une question, c'est une remarque pour prolonger un peu ce que tu as dit. Ce matin, j'ai fait le choix de parler que du XIIe siècle et de la période de traduction. Mais j'aurais pu aussi, de la même manière que Nicolas vient de le montrer pour la philosophie naturelle, vous montrer qu'en mathématiques, après cette phase de traduction, il y a aussi une phase d'assimilation et qu'il y a une phase d'innovation qui, comme l'explique très très bien Nicolas, se fonde sur des minuscules changements conceptuels. C'est-à-dire que quand on étudie cette période-là, il ne faut pas s'attendre à d'immenses bouleversements de théories tout à fait révolutionnaires. Mais ce qui est fascinant, enfin moi j'adore cette période pour ça, c'est que justement on voit que de tout petits changements conceptuels qui sont difficiles à trouver dans les textes, parce que là du coup il faut vraiment regarder à la loupe, éviter toute généralisation qui ferait passer à côté de ça. Et c'est ces tout petits changements qui nous fait avancer. Et je trouve que tu l'as remarquablement montré là sur tes deux exemples. Et je te remercie. Moi j'aurais pu faire la même chose en mathématiques vraiment, Voilà, donc c'est juste pour dire que ce n'est pas propre à la philosophie naturelle, mais qu'on a exactement la même chose en mathématiques. Sur ce, on va faire la pause. Merci beaucoup. On finit la journée avec l'exposé de Joël Chandelier qui va nous parler de la médecine, des apports de la médecine arabe à la médecine occidentale. La médecine arabe étant extrêmement développée à cette époque par rapport à ce qu'on pouvait avoir en Occident. Et donc voilà, je laisse la parole.
Merci. Alors, donc je remercie bien sûr Anne et le CESM pour l'invitation. Donc on va terminer par de la médecine, c'est-à-dire une science qui est aussi un art, et donc un petit peu plus orientée vers la pratique, évidemment, que certaines disciplines qu'on a vues jusqu'à présent, même si on a vu qu'il y avait des applications concrètes régulières. Et plutôt que de commencer par le Moyen-Âge, je vais commencer par le XVIe siècle, la Renaissance, et par un texte dont vous avez le frontispice, un texte publié en 1533, même si en fait l'édition que je montre ici, c'est la seule que j'ai trouvée, et de Lyon un an après, donc 1534, mais le texte est paru à Venise en 1533, un recueil de petits traités intitulé donc Novae Academiae Florentinae, opuscula adversus Avicennam et medicos neotericos, qui Galeni disciplina neglecta barbaros incolunt. Traduction, petit traité de la nouvelle académie de Florence contre Avicenne et les médecins néotériques, c'est-à-dire innovateurs, grosso modo, qui, négligeant la discipline de Galien, cultivent les barbares. Alors, ce texte, qui est écrit par divers médecins italiens, tous anonymes, parce que chacun avait une carrière à protéger, donc ils ne se sont pas déclarés, mais enfin, on en a repéré certains, notamment un certain Bassiano Landi, plus tard professeur à Padoue, de médecine théorique. Et ce Bassiano Landi a publié, cette série d'opuscules, un Barbaromastix, donc, je ne sais pas comment on pourrait traduire, le mangeur de barbares, le broyeur de barbares, et le comme le titre l'indique, l'objectif de ce traité, c'est de montrer toutes les erreurs, tous les problèmes que posent donc, ceux qui suivent Avicenne et donc, les innovateurs qui suivent les barbares, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas la bonne langue, en l'occurrence le latin classique, évidemment la langue critiquée et la langue médicale du Moyen-Âge, qui est une langue, disons, effectivement contaminée fortement d'arabe et d'autres origines. Alors, l'essentiel de la critique concerne justement la langue, mais aussi des points de détail, comme la pharmacologie, qui, évidemment, dérive aussi d'erreurs de philologie, puisque on transcrit mal les termes, on ne voit pas de quelle plante on parle, donc ça crée des erreurs. Et l'objectif de ce type de traité est de revenir à une médecine grecque authentique, c'est-à-dire celle de Galien, deuxième siècle de notre ère, le grand médecin, le prince des médecins. Et évidemment, ce genre de critique s'inscrit parfaitement dans le mouvement de la Renaissance, de l'humanisme, en l'occurrence médical. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que si on critique les Arabes, c'est qu'ils sont là, qu'ils sont très utilisés. Et d'ailleurs, la même année, il y a une réponse à cette attaque qui s'appelle l'Apologetica Epistola Pro Defensione Arabum Medicorum. Donc, une lettre apologétique pour la défense des médecins arabes écrite par un médecin de Tübingen, Bernhard Unger. Donc il y a un débat au début du XVIe siècle sur la place des Arabes dans la médecine. Qu'est-ce qu'ils ont apporté ou qu'est-ce qu'ils ont au contraire perverti.
Ce débat va durer tout le long du XVIe siècle et les auteurs arabes continueront à être utilisés. Et c'est seulement au XVIIe siècle qu'on commencera à les abandonner lentement. En fait, pour des raisons d'évolution de la science médicale, hein, qui se détournera un peu du système médical inventé dans l'Antiquité, parfait par les Arabes, et on passera à vraiment un autre monde. Mais donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'au XVIe siècle, ce débat apparaît. Alors, par la suite, il n'y a plus de débat, puisque les Arabes, finalement, n'ont fait que reprendre les Grecs, peut-être en moins bien. Et de toute façon, même cette science grecque a été dépassée par la médecine moderne. Et on en arrive au XIXe siècle à des points de vue encore plus contrastés où carrément on nie totalement l'apport arabe. Je cite donc Ernest Renan, auteur que vous connaissez sans doute, qui fut dans une conférence en 1883 intitulée « L'islamisme et la science », donc explique, je vous donne une petite citation, un peu caricatural, mais Renan parfois est un peu caricatural. Ce qui distingue en effet le musulman, c'est la haine de la science, c'est la persuasion que la recherche est inutile, frivole, presque impie. La science de la nature, parce qu'elle est une concurrence faite à Dieu. La science historique, c'est surtout ça qui intéresse Renan, parce que s'appliquant à des temps antérieurs à l'islam, elle pourrait raviver d'anciennes erreurs. Évidemment, cette critique de Renan est fausse pour les deux termes, mais je ne m'y attarderai pas en détail. Ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, eh bien, il y a des auteurs qui pensent tout à fait le contraire. Et je cite un certain Lucien Leclerc, donc auteur d'une histoire de la médecine arabe, donc en 1876, lui-même était médecin en Afrique du Nord. Et voilà ce qu'il dit dans son introduction. Ce peuple, donc les Arabes, que le fanatisme fit le conquérant de la moitié du monde, prit aussitôt pour maître les chrétiens ses vaincus. Il mit à s'assimiler leur science un tel enthousiasme et une promptitude si merveilleuse, déployant des aptitudes qui semblaient étrangères à la race, donc la race arabe, qu'il les eut bientôt dépassées. Pendant 5 ou 6 siècles, il tint le sceptre des Lumières et de la civilisation. Il rendit à ses antagonistes barbares les services qu'ils avaient reçus des chrétiens de l'Orient. Il leur transmit les sciences dont ils avaient laissé tarir la source. Pendant la seconde moitié du Moyen-Âge, la science arabe défraya l'Occident. Donc, il parle ici de science en général, mais évidemment, son objet est la médecine. Alors, Leclerc, évidemment, mis en avant le modèle de la translatio studiorum, c'est-à-dire un sceptre, hein, un bâton, que l'on transmet, donc brillamment porté par un temps, pendant quelques siècles, par les Arabes, mais finalement, in fine, remis à ses vrais dépositaires, c'est-à-dire l'Occident. Et d'ailleurs, Leclerc lui-même s'intéresse peu aux doctrines médicales, il le dit lui-même, il dit « ça ne m'intéresse pas tant que ça », parce que finalement, ils n'ont fait que répéter ce qu'ont dit les Grecs, c'est très important, il vient de le dire, mais fondamentalement, ce qui est important, c'est l'histoire des auteurs, leur existence, leurs écrits, mais le contenu, finalement, pour lui, n'est pas essentiel. Hein, ce qui l'intéresse, c'est l'orientalisme, c'est l'apport, disons, historique, mais pas tellement l'apport intellectuel à proprement parler. Alors, cette vision, donc ces deux visions tout à fait contrastées, à peu près à la même époque, dans les mêmes lieux, ont abouti, là aussi, à des réflexions beaucoup plus récentes et scientifiques. Je vous mets deux titres ici qui portent précisément sur le sujet qui m'intéresse aujourd'hui. Donc un livre allemand donc, par Schipperegges. Donc je vais vous épargner la lecture du titre en allemand. Mais le titre se traduit « L'assimilation de la médecine arabe dans le Moyen-Âge latin ». Et l'ouvrage de Daniel Jacquard et Françoise Michaud, paru en 1990, « La médecine arabe et l'Occident médiéval hein, », qui sont vraiment des synthèses, toutes les deux extrêmement bien faites, qui explique réellement le rapport entre la médecine arabe et ce que l'Occident en a tiré, et ou n'en a pas tiré, d'ailleurs. Alors, évidemment, ces travaux ont mis en avant l'apport vraiment scientifique, hein, de contenu doctrinal des Arabes, et non pas seulement l'existence, le fait qu'il y avait des médecins. Voilà. Et certains se sont emparés de cette vision, un peu comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, pour en tirer des conclusions un petit peu excessives, on va dire. Il suffit d'aller très rapidement taper science arabe, médecine arabe sur Internet pour tomber sur des sites tout à fait autorisés, puisque sur le site de l'Académie de Rouen, par exemple, voilà ce qu'on lit. Les médecins arabes étaient également de grands chirurgiens. Ils ont inventé l'anesthésie à l'éponge, pratiqué les accouchements par césarienne et savaient réduire des fractures. Bon, ce qui est faux pour l'anesthésie, ce qui est vrai pour le reste, mais les Grecs le faisaient déjà. Donc, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Un césarienne, bon, vous savez d'où ça vient, ça c'est facile. Évidemment, la réduction des fractures aussi. Autre site, alors là, j'ai carrément mis l'image, parce que voilà, je me suis fait plaisir pour montrer que c'est vrai, mais surtout, il y a une petite anecdote après. Sur un site d'un collège, donc je ne sais pas quel collège, toujours l'Académie de Rouen, je ne sais pas ce que j'ai contre les Normands. Voilà.
Pour un malade, vous pouvez lire, pour un malade ou un blessé, les chances de survie étaient 100 fois plus grandes à Bagdad ou à Damas qu'à Paris ou à Rome. C'est quelque part, voilà. Non, ça c'était la... Ah non, excusez-moi, c'était la... C'est l'autre citation. Enfin, peu importe. Alors, je me suis quand même dit, mais d'où est-ce qu'il sort cette phrase ? 100 fois, bon, ok, peut-être qu'effectivement, on avait plus de chances de survivre quand on a de bons médecins que de mauvais, mais pourquoi 100 fois ? Et alors, en faisant une recherche Google toute bête, je suis tombé sur un livre d'un certain Georges Vigneault, est-ce que quelqu'un le connaît dans la salle ? Je ne sais pas. Donc là, je vais être vraiment un grand chercheur du CNRS, spécialiste de sciences cognitives, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'aventure du corps, des mystères de l'Antiquité aux découvertes actuelles », paru en 2009. Et il y a explicitement cette phrase. Alors, la grande question, c'est qui a copié qui ? Étant donné que Georges Vigneault a aussi écrit en 2011 un ouvrage dont le titre, je l'aime beaucoup, « Les imbéciles ont pris le pouvoir, ils iront jusqu'au bout », je pense que ce n'est pas lui qui a copié le site de l'Académie de Rouen. Bref, tout ça, c'est une vision extrêmement naïve, hein, évidemment, et appuyée sur aucune source. Et en fait, on ne peut pas du tout calculer ce genre de choses, c'est évident. Mais du coup, cette vulgate complètement simplifiée et fausse a provoqué des réactions opposées. Et je ne cite que cet ouvrage très connu, donc là aussi récent, de 2008, je crois, de Sylvain Guggenheim, qui dit, je cite là, le passage, enfin, non, je ne cite pas Guggenheim, je cite plutôt ceux qui l'ont lu et qui en ont tiré des conclusions qui allaient au-delà de ce que disait Guggenheim, qui était déjà assez faux, mais là, ça va beaucoup plus loin. Roger Paul Droit dans Le Monde, je ne cite que des bons auteurs, évidemment. « L'islam ne s'est pas vraiment, véritablement hellénisé. La raison n'y fut jamais explicitement placée au-dessus de la révélation, ni la politique dissociée de la révélation, ni l'investigation scientifique radicalement indépendante. Somme toute, contrairement à ce qu'on répète crescendo depuis les années 60, précisément les ouvrages que j'ai cités, hein, Schipper et Gasset 64, la culture européenne, dans son histoire et son développement, ne devrait pas grand-chose à l'islam, en tout cas rien d'essentiel. » Alors, toutes ces, évidemment, ces présentations, pas du tout celle de Daniel Jacquard, Schipper et Gasset, évidemment, mais les autres sont extrêmement caricaturales et, comme l'a dit Nicolas, sont les extrêmes opposés qui sont tout aussi faux les uns que les autres. En réalité, la difficulté, c'est qu'il est très difficile, sans rentrer dans le détail concret des faits, de comprendre l'apport réel des sciences. Et on l'a vu avec les communications de ce matin et celles de cet après-midi, tant qu'on ne rentre pas dans le détail, et donc qui est parfois fastidieux, et long, et pénible, et érudit, et bon, on ne comprend pas réellement ce qu'ont apporté ces disciplines. Parce que quand on met en avant des découvertes comme la césarienne, bah finalement, en fait, elles existaient déjà. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils ont réellement apporté ? Alors, il y aurait des multitudes de manières de répondre à cette question. Et pour ma part, je vais me limiter à le faire en partant de trois exemples. Ça me paraît plus pédagogique, on va dire. Trois auteurs fondamentaux pour l'histoire de la médecine arabe et trois auteurs qui ne sont pas seulement exceptionnels par eux-mêmes, mais en plus ont eu un succès énorme en Occident, ont été traduits en latin et ont profondément influencé, je vous montrerai comment, la médecine occidentale. Et donc à chaque fois, je vais m'attarder sur ces auteurs, ce qu'ils ont dit et comment cela a influencé la médecine arabe. Et ce sera autant d'exemples qui, à mon avis, couvriront un large champ de l'histoire de la médecine. Alors ces trois auteurs sont des auteurs dont on a déjà parlé, sauf peut-être le premier, Razi, donc, auteur donc, mort en 925, Avicenne et Averroès. Vous voyez que chacun exerce, grosso modo, hein, au 10e, 11e et 12e siècle, donc ils se succèdent dans le temps et correspondent à des moments et des espaces parfois différents. Donc ce sera mon plan qui est voyez, une simplicité toute évangélique. Razi, commençons par lui, par ordre chronologique. J'ai mis une petite carte où vous voyez sa ville d'origine, donc Rai, proche de Téhéran aujourd'hui, hein, d'où sa cunia Razi. Une image qui est évidemment une image occidentale, hein, qui date du 15e siècle, où on représente ce personnage avec un turban comme il se doit. Et j'ai mis Bagdad aussi, puisqu'il a vécu à Bagdad. Alors, ce Abou Bakr Muhammad ibn Zakari à Razi est né donc à Rai en 965, est arrivé à Bagdad, donc fin 9e siècle, à une époque évidemment de grandes activités scientifiques dans cette ville, comme on l'a rappelé ce matin, s'est mis au service des émirs locaux, qui étaient donc des bouillis, des chiites, persans, et il a dirigé plusieurs hôpitaux à Bagdad, même si parfois bon, la légende s'ajoute au personnage. Alors, ce Razi est très intéressant, puisque c'est quelqu'un qui manifeste dans toutes ses œuvres une immense confiance dans le progrès de la science. Et voilà ce qu'il dit dans une citation tirée d'un débat avec un penseur ismaélien, Abu Hatim, conservé dans l'œuvre de ce Abu Hatim. Et voilà ce que dit Razi. Tout philosophe qui vient à la suite des anciens, donc des Grecs, hein, également des Indiens, mais enfin pour la médecine, c'est surtout les Grecs, S'il consacre son énergie à l'examen de la philosophie, acquiert la science de ceux qui l'ont précédé et l'assimilera. Mais il saisit d'autres choses par son intelligence profonde et il surpassera aisément les anciens parce qu'il est vrai que la recherche, l'examen et l'effort soutenu apportent obligatoirement un surcroît de science. Donc, pour un auteur comme Razi, il est évident que la recherche scientifique apporte des choses nouvelles et ne fait pas que répéter, sinon ça ne servira à rien de réécrire des ouvrages. Il suffirait de prendre ce qui existe ou éventuellement de les traduire. Et de fait, Razi a beaucoup écrit. Il a écrit en tout 184 traités, c'est la liste qu'on a conservée dans ses biographies, dont 61 en médecine, donc il n'a pas écrit qu'en médecine, il a aussi écrit en sciences naturelles, alchimie, astronomie, etc. Vous avez la liste ici. Et parmi ces 61 ouvrages de médecine, 32 sont aujourd'hui conservés, 18 en latin ont été traduits, les autres sont évidemment conservés en arabe. Et les deux plus grandes œuvres médicales qu'il a écrites, c'est Al-Hawi, donc le Continens des latins, et le Kitab al-Mansuri fit Tib, Liber ad al-Mansorem, dont je parlerai tout à l'heure. Alors, j'en parle tout de suite en fait. Commençons par le Liber ad al-Mansorem des latins, qui est un ouvrage rédigé par Razi alors qu'il était à Rai et dédié au gouverneur de la cité qui s'appelait donc, dont le surnom était Al-Mansour, donc le victorieux, et d'où le titre, le livre pour Al-Mansour, fictif donc à propos de la médecine, sur la médecine. Donc ici vous avez donc quelques extraits d'un manuscrit du XVIIe siècle conservé aux États-Unis. Donc voilà le traité lui-même. De quoi parle Razi dans ce traité? Eh bien, c'est un traité général, une encyclopédie de la médecine en 10 livres. Le premier sur l'anatomie, ensuite sur la complexion, ensuite sur les aliments et les médicaments, etc. etc. Il fait une synthèse de la médecine grecque, qui a été traduite au siècle précédent, en insistant sur certains aspects qui lui sont propres, et notamment l'intérêt pour le milieu dans lequel les hommes évoluent, le rôle du milieu extérieur sur leur santé et sur éventuellement la maladie. Également, les liens entre corps et âme. Il insiste beaucoup sur ce qu'on appelle la psychologie, c'est-à-dire les maladies qui peuvent être induites par un état spirituel, un état psychologique dévié de la normale. Et d'ailleurs, il a aussi écrit un traité de médecine spirituelle, qu'en fait est un traité d'éthique destiné aux personnes qui ne veulent pas tomber malade pour des raisons, disons, spirituelles, et qui a été traduit par Rémy Brague en français. Alors, cet ouvrage de Razi, ce premier, donc ce Liber ad al-Mansorem, a été traduit intégralement en latin par Gérard de Crémone au XIIe siècle. Mais ce qui est intéressant, à nouveau pour montrer l'évolution, en fait, ce qui a intéressé essentiellement les latins, ce n'est pas l'ensemble des 10 livres de ce Kitab al-Mansuri, c'est uniquement ou principalement le livre 9. Pourquoi le livre 9? Eh bien, en fait, c'est ce qu'on appelle une practica, c'est-à-dire une liste des maladies et évidemment des manières de les soigner, organisées tout à fait classiquement, de la tête aux pieds. Donc on commence par les maladies de la tête, après les maladies des yeux, du cerveau, etc., de toutes les parties de la tête, et puis on descend le corps, les poumons, etc., jusqu'à arriver aux extrémités et donc aux pieds. Et du coup, ce traité, donc ce neuvième livre du Liber ad al-Mansorem, a été très largement commenté par des auteurs, notamment en Italie, mais surtout à Montpellier, où il y a une tradition montpelliéraine d'utilisation de ce texte pour apprendre tout simplement la médecine dans les universités. Et donc, puisqu'on lit ce texte traduit de l'arabe avec évidemment des termes compliqués et puis des concepts difficiles, eh bien les commentaires sont là pour expliquer et parfois évidemment aller plus loin ce texte. Donc ici j'ai mis un commentaire qui n'est pas montpelliérain, mais il y en a évidemment des montpelliérains, d'un certain Silanus de Nigris, un auteur du début du XVe siècle italien qui était médecin et enseignant à l'université de Pavie. Donc ici, ce qui a intéressé les auteurs, c'est l'aspect vraiment pratique de cet ouvrage, alors qu'il y a des aspects tout à fait plus théoriques, notamment au début. Autre ouvrage de Razi, le Kitab al-Hawi, le Continens, donc l'ouvrage qui contient tout. De fait, c'est un ouvrage énorme. Ce qui est intéressant sur cet ouvrage, c'est qu'en fait, il n'est pas réellement rédigé par Razi, ce sont des fiches qu'il a tenues au cours de sa vie sur toutes sortes de maladies. Et il recopiait les passages des auteurs anciens qui l'intéressaient, grec et arabe également, et il y ajoutait ses remarques personnelles, parfois des compléments, parfois des cas particuliers, des cas précis qu'il a soignés, où il explique en fait que telle maladie, il l'a soignée de telle manière et ça marche plus ou moins bien. Donc c'est une collection de fiches qui a été rassemblée par ses élèves sous forme d'un livre, donc assez décousu dans son organisation, mais extrêmement riche en annotations, et notamment en annotations cliniques, On a relevé 33 observations cliniques très très précises, bon, il y en a beaucoup plus hein, de détails, mais très précises où Razi mentionne le nom du patient, symptômes du mal, traitement appliqué, résultat obtenu. Donc réellement, hein, tout le processus de soins expliqué par Razi. Un exemple, il a soigné donc, à Bagdad un certain Abdallah ibn Sawad, atteint de fièvre intermittente et régulière. Et Razi explique que, voyant cela, il a pensé à une fièvre carte, une fièvre qui revient tous les 4 jours, ce qui correspond grosso modo au paludisme. Mais il a noté que dans les urines, il y avait du pus dans les urines et qu'il y avait des antécédents familiaux. Et donc, il a plutôt diagnostiqué, malgré l'apparence hein, d'une crise de paludisme, un abcès rénal. Et du coup, il a pu le soigner avec succès. Donc, il a noté tous les symptômes, relevé ceux qui lui paraissaient pertinents pour soigner la personne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, il dit qu'il avait oublié d'interroger le patient sur d'éventuelles douleurs lombaires et que s'il l'avait fait, bah, il aurait tout de suite su que ce n'était pas le paludisme, mais bien un abcès rénal. Et donc, vous voyez qu'il met en avant hein, ses propres pas, échecs, parce qu'évidemment, il ne va pas non plus se déprécier, mais ses hésitations, ses éventuelles erreurs hein, pour montrer comment il faut procéder. Ce qui est intéressant aussi chez Razi, c'est qu'il a une grande liberté vis-à-vis des autorités anciennes, et donc notamment Galien, la grande autorité médicale pour la médecine grecque et arabe, et il a écrit un ouvrage intitulé « Doutes sur Galien ». C'est un genre littéraire assez courant hein, dans le monde arabe, des doutes, c'est-à-dire tout ce qui lui semble faux chez un auteur comme Galien. Je vous lis un passage, bon, peut-être, je vais lire assez rapidement, c'est un peu long. Je dis, alors, il est parfois assez agressif, même s'il aime beaucoup Galien, mais bon, il reconnaît ses erreurs. Il n'y a rien de plus étonnant que la passion l'emporte sur le raisonnement. Là, il parle en fait de Galien qui, sur un sujet très précis, commence à agresser, ce qu'il faisait assez souvent d'ailleurs, ses adversaires. Et pas de dommage plus grand que le fait que les personnes versées dans la théorie eux-mêmes ne l'évitent pas, hein, la passion. N'est-il donc Galien pas celui-là même qui nous a appris à éviter ce genre de critères dans son traité sur la démonstration ? Traité d'ailleurs perdu aujourd'hui. Et dans beaucoup de ses autres traités, en faisant montre de la plus grande habileté et de l'examen le plus profond. J'aimerais savoir, dès lors, pourquoi il s'en satisfait ici et l'utilise, c'est-à-dire la rhétorique, la passion, sinon à cause de sa tendance excessive à vouloir établir cette opinion et de sa partialité en sa faveur au détriment des autres. Pourquoi faudrait-il, j'aimerais le savoir, que si, lorsque l'urine se déplace des reins, alors la question est voilà, de savoir pourquoi l'urine se déplace hors des reins. Cela ne peut pas être causé par la force nécessitante du vide, ce que refuse Galien, alors que le trajet du sang dans le corps ne puisse pas non plus être causé par la force nécessitante du vide. Il dit, pourquoi on ne pourrait pas envisager ça? Et Galien le balaye d'un revers de main. La seule raison, c'est que donc Galien se sépare ici de la voie démonstrative et emprunte celle qu'utilisent les rhéteurs, c'est-à-dire celle du syllogisme par les exemples, donc vraiment un mode de raisonnement qui n'est pas scientifique, ou celle qu'utilisent les dialecticiens, c'est-à-dire celle du syllogisme inductif, donc un autre mode de raisonnement qui là non plus n'est pas scientifique, au point d'affirmer et d'expliquer, j'aimerais bien savoir pourquoi, donc il se pose beaucoup de questions, que tout ce qui subit une force d'attraction dans le corps doit le faire d'une seule et unique manière. Et ça, il dit non, c'est pas, ça peut être de plusieurs manières. En effet, l'air qui est attiré lorsqu'on respire ne l'est pas à cause d'une disposition propre des poumons à attirer l'air, comme le fer est attiré par l'aimant, mais à cause de la force nécessitante du vide. La cage thoracique s'élargit, il y a du vide, ça attire l'air, qui constitue la force d'attraction la plus importante dans le corps, dans les processus vitaux, dont fait partie la respiration pour les créatures sanguines. Donc voilà un exemple de critique assez sévère quand même, de Galien, sur son mode de raisonnement et donc sur les résultats, en l'occurrence en physiologie, auxquels il est arrivé. Alors, le Continence, cet ouvrage, donc, cette sorte de fiche, cet ensemble de fiches, a été traduit en latin, là aussi, assez tardivement. En réalité, il a été traduit à la fin du XIIIe siècle, en 1279, non pas à Tolède, comme beaucoup de traductions du XIIIe siècle, mais en Sicile, par un juif du nom de Farage Ben Salem, donc en 1279, au nom et pour le roi de Naples et de Sicile, Charles Ier d'Anjou. Et selon ce que nous dit le texte, l'introduction, c'est Charles d'Anjou lui-même qui, ayant eu connaissance de ce texte qui lui semblait très important, l'a fait demander au sultan Afside de Tunis, qui lui a donné donc le texte, et lui, il l'a fait traduire par un juif donc, de sa cour. Et sur, donc là, vous avez la première page hein, du manuscrit original de la traduction, hein, offert à Charles d'Anjou. Et voilà la miniature. On voit parfaitement sur la droite donc, ce sultan Afside qui donne le traité. Et bon, entre les deux images, il y a un travail rapide de traduction. Et hop, on en arrive en Occident, où le traducteur a fait sa traduction et la remet hein, au roi de Sicile. Donc voilà. Visuellement, hein, ces traductions, c'est assez rare qu'on ait ce genre de choses. Alors, Ce traité, après, a été imprimé, hein, et un grand succès. Donc, gardez bien en tête cette image de Razi en train de travailler chez lui, donc son petit appartement cossu. Donc, vous avez Continens Razi, c'est donc le Continens de Razi, donc dans une impression qui date du début du XVIe siècle. Alors, en quoi a été utile Razi ? Eh bien, Razi a paru pour les Latins, et notamment à Montpellier, hein, et Arnaud de Villeneuve, dont je vais parler à l'instant, est un auteur montpelliérain, hein, comme le meilleur interprète de Galien, et même meilleur que Galien, puisqu'il corrige Galien sur certains points, dont on a vu la question des doutes sur Galien, ou certains points où Galien n'est pas clair, ou est même faux. Et dans un ouvrage sur l'intention des médecins, l'objectif des médecins, hein, écrit par Arnaud de Villeneuve, qui est un ouvrage un peu général sur ce que doit faire un médecin, voilà ce qu'il dit de son propre livre. Ce petit livre sur l'objectif des médecins est fondé sur l'enseignement de plusieurs auteurs, à savoir Galien et quelques Arabes, dont Razès, donc Razi, homme clair dans la réflexion, prompte dans l'œuvre, donc l'action, décisive dans le jugement, fiable dans l'expérience. Fiable dans l'expérience. C'est surtout en tant qu'expérimentateur qu'il est apprécié. Il nous a spécialement procuré une introduction dans son petit livre sur la concorde des philosophes et des médecins. Dans cet opuscule, même si l'intention des affirmations concrètes n'apparaît pas clairement, du moins la manière de comprendre ces affirmations est montrée de façon lumineuse. Les obscurités qui souvent effraient dans les livres de Galien sont éclairées par la brillante lumière de cette œuvre. Donc ici, Razi hein, est vraiment celui qui vient éclairer Galien, qui, il est vrai, hein, si vous vous amusez à lire Galien, enfin, je ne sais pas si ça peut être vraiment amusant, mais enfin, si c'est assez amusant, eh bien, c'est souvent assez confus, en tout cas, ce n'est pas très structuré. Eh bien, Razi apporte cette lumière hein, qui permet de comprendre beaucoup mieux l'œuvre de Galien. Autre intérêt de Razi, donc, son intérêt pour l'expérience et la relation de cas pratique a fait qu'il a été considéré comme le meilleur disons expérimentateur, hein, et même appelé experimentator hein, dans les textes latins, du Moyen-Âge tout compris. Et cela fait que son traité sur la variole et la rougeole a été retraduit au XVIIIe siècle, et en 1747 et en 1766, pour des raisons vraiment médicales, et non pas d'un intérêt orientaliste, ce qui est le cas de la traduction de 1866, qui elle est plus disons, dans le mouvement de l'intérêt pour, historique hein, pour l'Orient. En XVIIIe siècle, quand on traduit ce texte, c'est parce qu'on cherche hein, évidemment, la variole est une maladie importante qui sera soignée justement à la fin du XVIIIe siècle. On cherche des moyens de soigner cette maladie. On retraduit des textes anciens qui traitent du sujet et apportent des propositions de soins. Hein, donc, Razi a été considéré jusqu'au XVIIIe siècle. C'est presque le seul. Hein, c'est une traduction complètement, c'est un apax, hein, qui n'a pas d'autres traductions au XVIIIe siècle ou très peu. Considéré comme vraiment un médecin tellement bon d'un point de vue pratique que ses enseignements peuvent encore être utiles, bien qu'au XVIIIe siècle, le cadre théorique est complètement changé, mais les médicaments pratiques qu'il propose sont toujours valables. Alors, la question de l'efficacité de la réelle influence clinique de Razi, bon, ça, c'est autre chose, je ne rentre pas dans ce détail, on pourrait vraiment en discuter, mais l'importance, c'est cela. Du coup, pour résumer, quels sont les apports d'un auteur comme Razi ? La parfaite connaissance de Galien, tout en étant libre par rapport à cet auteur majeur, hein, on n'hésite pas du tout à le critiquer, un intérêt pour les cas particuliers, qui, évidemment, a un rôle pédagogique, mais aussi explicatif et qu'on peut directement appliquer à des cas similaires. Et donc cette orientation pratique hein, qui donc en fait le meilleur connaisseur de l'art, la partie, disons, artisanale hein, de la médecine, cet art du praticien presque intangible, difficile à enseigner, et Razi a su le transmettre. Alors je passe à mon deuxième auteur. Si je vais un peu trop vite, hein, vous n'hésitez pas à lever les yeux au ciel, à faire des grands gestes, je suis tout à fait prêt à revenir à m'attarder un peu plus. Avicenne, Ibn Sina. Donc là, j'ai remis des petites images. Vous voyez qu'il n'est pas tout à fait du même endroit que Razi, mais enfin pas trop loin. Il est de Boukhara, donc normalement l'est du monde islamique. Et il s'est déplacé dans l'ensemble de la Perse, hein, grosso modo. Donc c'est un persan. Donc là aussi, une image qui date cette fois du XVIIe siècle, début du XVIIe siècle, hein, qui représente toujours avec un turban. Puisque, c'est, mais bon, par contre, le costume est un peu moins arabisant, mais on passera. Donc cet Avicenne, donc né à Boukhara en 980, a une formation très large. Vous verrez d'ailleurs quelques citations que je ne manque jamais de donner sur ce personnage. Sa vie a été une vie très politique. Il a occupé des postes administratifs, mais administratifs de très très haut niveau, puisqu'il a été vizir hein, de l'émir de Hamazan, donc en Iran, et il a occupé des vraiment, donc vizir, c'est-à-dire premier ministre, hein, l'équivalent. Et d'ailleurs, lui-même dit qu'il est obligé de travailler le soir, il n'a pas le temps d'écrire ses livres, même si bon, il a écrit quand même des milliers de pages, donc on peut y arriver. Et voilà ce qu'il dit sur sa formation. Donc, il a écrit une autobiographie, ce qui est quand même assez original. Autobiographie où on voit que c'est un personnage qui est tout à fait conscient de sa valeur. Je vous cite deux passages, notamment celui qui concerne la médecine et le deuxième plus pour le plaisir de la lecture. Donc, il vient de dire qu'il a étudié toutes les sciences en chemin. Je m'intéressais à la médecine et me mis à lire les ouvrages composés dans cette science qui n'est assurément pas une science difficile. Aussi, j'y fis de rapides progrès. Je commençais à soigner les malades, aussi s'ouvrir à moi les portes des traitements appris par l'expérience. J'étais alors âgé de 16 ans. Et la phrase suivante que j'ai coupée, il dit, et à ce moment-là, les gens venaient vers moi pour avoir des cours de médecine, notamment les médecins expérimentés qui se rendaient compte qu'ils n'étaient pas aussi forts que lui. La dernière phrase est intéressante. Parvenu à l'âge de 18 ans, j'en avais fini avec l'étude de toutes les sciences. À ce moment, mes connaissances étaient dues surtout à mes mémoires, tandis qu'aujourd'hui, mon esprit est plus mûr. À cela près, mon savoir est le même et rien n'a changé. Donc, jusqu'à 18 ans, il a appris ce qu'avaient fait les autres avant lui, comme le dit Razi, et après, il n'a fait qu'ajouter des choses plus intelligentes et nouvelles. Alors, il a écrit dans tous les domaines, et il a beaucoup écrit en médecine. Enfin, il n'a pas écrit énormément d'œuvres. La trentaine de traités courts que j'indique sont vraiment souvent très courts. En revanche, il a écrit une grosse œuvre que Nicolas a évoquée tout à l'heure, le canon de la médecine, qui est un terme qui vient du grec, la règle de la médecine, ainsi qu'un poème de la médecine plus court, donc évidemment mis en vers pour permettre une plus facile mémorisation et qui lui aussi a eu un énorme succès dans le monde arabe. Et enfin, un traité sur les principes des médicaments cordiaux. Ces trois traités ayant été traduits en latin. Les autres traités médicaux n'ont pas été traduits en latin, mais sont vraiment de moindre importance. Alors, son ouvrage principal, c'est le canon de la médecine. Le canon de la médecine, c'est une, là aussi, comme le Libera d'Almansorem de Razi, c'est une encyclopédie qui traite de toute la discipline médicale. Organisée en cinq parties. Première partie, les généralités, donc physiologie, rapport avec la philosophie, etc. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Qu'est-ce que c'est que le milieu extérieur? Comment ça influence, etc. Comment est-ce qu'on soigne de manière globale? Deuxième partie, les médicaments simples. Donc, dans la première partie, c'est notamment là que se trouve le passage que Nicolas a évoqué tout à l'heure. Les médicaments simples, donc chaque simple, qu'est-ce que ça fait, quels sont ses effets. Ensuite, une partie équivalente au 9e livre de Razi que j'ai évoqué tout à l'heure, Maladie de la tête aux pieds, en 22 chapitres. Enfin, quatrième partie, les maladies qui ne sont pas localisées, comme les fièvres ou l'esthétique, des choses... ou d'autres types de maladies qui vraiment ne sont pas localisées, les pestes, etc. Et enfin, les médicaments composés, les antidotes, c'est-à-dire un mélange de simples pour en faire un médicament nouveau. Alors, je vais rester là, pardon. Avicenne a eu un succès énorme à travers le canon d'Avicenne, que ce soit dans le monde arabe ou dans le monde latin, puisqu'il a été utilisé comme base d'enseignement de la médecine pendant très très longtemps, dans le monde indien jusqu'au 19e siècle, voire au début du 20e siècle. Il y a ce qu'on appelle la médecine grecque, justement, la médecine des anciens, est une médecine fondée en fait sur le canon d'Avicenne. Il y a encore des instituts aujourd'hui de médecine traditionnelle indienne, mais qui en fait c'est de la médecine grecque, c'est de la médecine galénique, revisitée par les Arabes. Mais pour revenir à l'Occident, il y a eu des commentaires très nombreux, puisque le canon de la médecine est devenu une des bases de l'enseignement de la médecine. Alors, en quoi Avicenne est important, outre le fait que c'est devenu un manuel très courant, il y a plus de 200 manuscrits, donc c'est quand même un chiffre énorme de ce texte en latin. Eh bien, ce n'est pas tellement pour des découvertes. Si vous lisez une histoire un peu mal faite de la médecine, on dirait qu'il a découvert ceci, cela, mais en réalité, Avicenne n'a rien réellement découvert comme soins ou des toutes petites choses de peu d'importance et même souvent peu assurées. La plupart du temps, il s'appuie sur les auteurs anciens, l'expérience transmise par d'autres Arabes ou des Grecs, notamment Razi, qu'il critique beaucoup pour la philosophie, il n'était pas du tout d'accord avec lui, mais pour les techniques médicales proprement dites, il les reprend sans aucun problème. Donc en tout cas, rien de révolutionnaire du point de vue de ce qu'on a vraiment la médecine au sens pratique. Quoi alors? Eh bien en réalité, c'est du point de vue théorique qu'Avicenne est révolutionnaire. Et vous avez compris tout à l'heure qu'Avicenne est un esprit bien fait et surtout très cohérent. Et son but est de fonder un système cohérent, et donc qui intègre la médecine parmi toutes les sciences, mais qui rende la médecine cohérente avec les autres disciplines, et notamment les disciplines qui lui sont supérieures, la philosophie et la philosophie naturelle, c'est-à-dire la biologie. Et le problème qui se posait à Avicenne, et à tous les auteurs, en fait, arabes et grecs, c'est qu'il y a des contradictions évidentes entre la philosophie naturelle, la biologie qui dérive d'Aristote, grosso modo, et la médecine telle qu'elle a été transmise par Galien, etc. Un exemple, l'origine des sentiments et de la sensation. Pour Aristote, l'origine de la sensation, c'est le cœur. Hein, d'où des expressions comme apprendre par cœur, etc. Hein, c'est le cœur qui est l'origine. Mais pour Galien, qui s'appuie sur des expériences médicales, c'est le cerveau. Hein, parce qu'il se dit, bah, si on blesse le cerveau, on voit que quelqu'un va perdre la mémoire ou va ne plus sentir, le toucher, etc. Donc c'est bien la preuve que c'est le cerveau. Et c'est un débat sans fin hein, entre les auteurs pour savoir qui a raison, Aristote, Galien, etc. Les philosophes, évidemment, tenant plutôt Aristote, les médecins tenant plutôt Galien, et chacun ayant des arguments. Que dit Avicenne ? Eh bien, il dit, ce n'est pas un vrai problème, c'est un faux problème. Pourquoi ? Eh bien, voilà ce qu'il dit exactement dans le canon de la médecine, donc tout au début. Ce n'est pas au médecin de procéder en suivant une argumentation démonstrative pour arriver à la vérité au sujet de ses controverses. Cette voie ne lui est pas ouverte du moment qu'il est médecin. Et cela ne l'empêche en aucune de ses actions, réflexions et actions. Qu'est-ce que veut dire Avicenne par là, après le détail ? Eh bien, pour le médecin, que ce soit l'origine, soit le cœur ou le cerveau, ça n'a aucune importance. Ce qui lui importe, c'est quel est l'instrument de la sensation dans le corps humain. Et dans le corps humain, l'instrument de la sensation, c'est le cerveau. Ça, il n'y a pas de problème. Et donc, si on a un problème de mémoire, c'est un problème au niveau du cerveau. Donc, c'est le cerveau qu'il faut soigner. Mais pour Avicenne, l'origine première de la sensation, c'est le cœur. Le cerveau n'est que l'instrument. De la même manière que pour la vision, évidemment, la vision s'imprime dans le cerveau et c'est le cerveau qui traite les informations. Mais quel est l'instrument ? C'est l'œil. Et donc, si on a un problème de vision, ben, on va soigner l'œil et pas le cerveau. Et ben, c'est la même chose hein, pour la sensation. Donc, voilà ce qu'il dit. Et donc, la controverse ne doit pas gêner le médecin. Il ne doit pas du tout s'arrêter dessus. Il doit surtout soigner le cerveau et pas le cœur. Donc, cette théorie, c'est ce qu'on a appelé l'instrumentalisme, hein, du fait que c'est l'instrument qui compte et non pas l'origine. L'instrumentalisme, qui est une théorie philosophique qui existe aussi au XIXe siècle, a été développée dans de nombreuses sciences, hein, justement pour permettre l'utilisation, enfin, l'efficacité d'une science sans se poser des questions, disons, métaphysiques ou scientifiques qui sortent du cadre de ce que peut le savant dans le cadre de sa propre discipline. Hein, donc l'instrumentalisme, ce n'est pas juste Avicenne, mais c'est lui qui, le premier, dans le cadre de la médecine, introduit cette notion bah, pour régler ce problème. Hein, il dit, ce qu'il faut soigner, c'est le cerveau. Et la question de savoir si l'origine, c'est le cerveau ou le cœur, c'est autre chose, c'est de la philosophie. Deuxième point, deuxième exemple, je vais aller beaucoup plus vite, Avicenne donne, dans le deuxième livre, cette règle pour l'expérimentation pharmacologique. Il dit, comment fait-on pour reconnaître un médicament qui est efficace ? Aristote dit, quand on voit que ça marche souvent, c'est que ça marche tout le temps. Bon, bah, ça ne suffit pas pour Avicenne. Il faut des règles précises pour encadrer cette expérimentation et s'assurer qu'elle est vraie. Donc là, vous avez la liste des règles. Il faut que le médicament ne soit pas modifié par une qualité externe. C'est, évidemment, si vous chauffez, l'eau ne fait rien. Si vous la chauffez, elle fait quelque chose. La substance doit être simple et non complexe, sinon il y a des interactions compliquées qui pourraient être, etc. De tester sur un corps tempéré, donc pas quelqu'un qui est particulièrement chaud, qui réagira différemment, etc., au plus fort de la maladie. Renouveler et vérifier plusieurs fois, mener sur des hommes et non sur des animaux. Donc toute une série de règles qu'il donne explicitement pour encadrer l'expérimentation des substances médicales. Alors, Avicenne donc, a été traduit hein, en latin, donc je vous mets donc, au XIIe siècle, je vous mets ici là, donc, une édition du 15e siècle. Vous avez Avicenne entouré d'Hippocrate et de je ne sais pas quoi, et de Galien. Voilà. Enfin, c'est plutôt Avicenne à droite et Galien au milieu et Hippocrate à gauche. Et Avicenne est devenu, comme je vous l'ai dit, la base de l'enseignement médical. Ici, vous avez le programme de l'Université de Bologne qui nous a été conservé pour l'année 1405, mais je pourrais vous montrer aussi celui de Montpellier au début du 14e siècle. Bon, évidemment, il y a Galien que vous voyez intervenir partout. Vous voyez un peu d'Hippocrate, saupoudrement de quelques morceaux d'Averroès. Mais quand même, Avicenne, première année, première leçon du matin, c'est Avicenne. Quatrième année, première leçon du matin, c'est Avicenne. Enfin, c'est organisé, il y a deux leçons par matinée. Et bon, je ne rentre pas dans le détail, après c'est les différentes parties du canon, donc je ne vais pas me rentrer. L'après-midi, même chose, hein, Avicenne intervient beaucoup, hein, un peu moins que Galien, même si c'est un peu trompeur, puisque les passages de Galien sont courts, alors que le bout d'Avicenne, c'est énorme. Donc en taille, en réalité, il est au moins aussi important que Galien. Ça, c'est pour la théorie. Un programme théorique. Pour la partie pratique, c'est uniquement le canon d'Avicenne. Toute la partie théorique, ça prend uniquement en Italie, en gros du XIVe siècle jusqu'au XVIe siècle, même début XVIIe, à partir du canon d'Avicenne. Donc c'est le manuel de base de l'enseignement médical en Occident. Alors, pas tout, hein, puisqu'il y a des passages qui ne sont pas pris dans l'enseignement et on préfère des ouvrages de Galien ou d'Hippocrate. Si on prend un commentateur, donc je cite toujours Gentile da Foligno, dont Nicolas a parlé déjà. Donc vous avez ici une belle image de Gentile da Foligno en train de peiner sur son papier, en train d'écrire un commentaire du divin Avicenne surmonté d'une couronne, puisqu'on pensait qu'il était, roi. Hein, il est marqué en bas « Princeps Avicenni », donc prince Avicenne, et au-dessus le spéculateur Gentile da Foligno. Donc mort en 1348. Et voilà ce qu'il dit du canon d'Avicenne, un ouvrage qu'il rédige à destination des étudiants. Personne avant Avicenne n'a composé un livre aussi parfait sur les principes de la médecine que le premier livre du canon. Ce qui rend cette œuvre aussi remarquable, c'est primo sa juste quantité, qui fait que quand l'étudiant l'écoute dans ses cours, il n'en est pas effrayé. Bon, c'est quand même assez costaud, hein, mais bon, il y a pire, on va dire. Secundo, c'est sa louable abondance qui pousse à son étude, donc quand même il est assez gros. Et tertio, son ordre facile à mémoriser qui s'adapte à la disposition de la science. Donc ce que met en avant Gentile da Foligno, c'est la structuration de la matière, disons scientifique, médicale, qui est extrêmement utile pour apprendre la médecine. Et c'est pour ça, il dit, c'est a posteriori, une fois que ça a été choisi, comme tout bon professeur, il justifie a posteriori le programme qui a été donné par quelqu'un d'autre en disant « il est excellent ». Mais ce n'est pas la seule influence qu'il y a eu. Et si je continue sur Gentile da Foligno, ici, on a un traité sur la peste très intéressant puisqu'il a écrit au moment de la peste. En fait, il est même mort de la peste. Selon son élève qui a terminé ce traité, qui n'a pas eu le temps de terminer puisqu'il a été interrompu par son décès, hein, il est mort de la peste, il dit qu'il a soigné tellement de malades qu'il a fini par attraper la maladie et il est mort de la peste. Donc, un personnage tout à fait sympathique pour ça. Et voilà ce qu'il dit au tout début. Ça, c'est le début du traité. Aucune pestilence de mémoire humaine n'a été aussi incroyable que celle qui a lieu maintenant et qui a commencé dans les parties méridionales et occidentales de l'Italie. Et après, il expose rapidement les causes. Certains astrologues, puisque la plupart des pestilences, on considère que ou c'était des fumées qui sortaient de la Terre, ou des cadavres en décomposition qui provoquaient des fumées et contaminaient l'air, ou une constellation qui contamine, en gros, c'est l'air ambiant est contaminé et fait tomber malade les gens, ou bien, donc, troisième possibilité, les astres qui modifient l'air et donc font tomber malade. Certains astrologues croient que sa cause est une éclipse qui a eu lieu il y a quelques années. D'autres croient que ce fut la conjonction majeure de Saturne et Jupiter dans la huitième maison et le signe des poissons, en opposition au lion. D'autres encore croient que sa cause est la corruption des eaux du fait de l'influence d'une planète corruptrice de l'eau, du fait que beaucoup de poissons sont corrompus. Bon, il a observé que des poissons étaient morts, donc c'est peut-être la cause. Voilà une cause lointaine, une cause astronomique, astrologique, en tout cas de philosophie naturelle. Et voilà ce qu'il dit juste après. Quoi qu'il en soit de ce débat, nous avons, après beaucoup de travail et d'expériences difficiles, trouvé que la cause particulière, immédiate, en était des matières vénéneuses qui étaient générées autour du cœur et du poumon. Quelle que soit la constellation ou conjonction qui en est la cause, nous savons ce sur quoi nous devons nous arrêter et ce que nous devons corrompre pour qu'il ne nous corrompe pas. De même qu'à celui dont la maison brûle, il suffit de savoir qu'il y a du feu, qu'il soit produit par lui ou par un autre. Et là, c'est l'application concrète immédiate dans un cas extrêmement important, puisque c'est la peste qui se déclare, et un tiers de la population probablement a disparu en l'espace de quelques années, de l'instrumentalisme. La cause lointaine n'a pas d'importance pour le médecin. Ce qui lui importe, c'est de trouver le remède à la maladie. Et que ce soit une constellation, certes, c'est une question importante d'un point de vue philosophique pour comprendre comment fonctionne le monde et peut-être prévoir les maladies. Mais quand on est face à une maladie, le médecin, son rôle, c'est de trouver le soin et pas de réfléchir théoriquement. Ce qui n'empêchera pas, par ailleurs, Gentile da Foligno de réfléchir à cette question. Mais dans le cadre d'un traité sur la peste, ce n'est pas le problème. Donc, quels apports d'Avicenne ? Vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes que Razi, même si bon, je caricature un petit peu, je simplifie pour le besoin de la démonstration. L'instrumentalisme, donc intégration de la médecine dans un cadre philosophique cohérent qui lui donne son autonomie et lui permet d'avoir ses propres méthodes. Des règles pour l'expérimentation, que j'ai évoquées tout à l'heure. Et enfin, l'organisation bien structurée de la matière médicale qui permet donc un enseignement, même si là, bon, d'autres encyclopédies arabes existaient et auraient pu remplir ce rôle. Alors, il me reste un quart d'heure, 20 minutes, si je ne me trompe pas. Ah non, non, mais je surveille moi-même l'heure parce que. En plus, j'ai un train à prendre. Donc, je n'avais pas que je le manque. Troisième auteur, autre auteur qu'on a vu tout à l'heure, donc Ibn Rushd, Averroès, donc plus tardif évidemment, qui est du 12e siècle. Lui, il est cordouan, donc à nouveau, j'ai revu ma petite image qui ne sert pas grand-chose si c'était à vous situer où se trouve la ville de Cordoue. Une image d'Averroès tirée d'une impression du début du 16e. Vous aurez noté que. Les imprimeurs de la Renaissance ne s'embarrassaient pas trop. Ils avaient une image de quelqu'un qui visiblement est un arabe, qui visiblement est un savant pieds nus. Bon, ça passera aussi pour Averroès. D'ailleurs, c'est le même éditeur, il ne s'est pas trop foulé. C'était plutôt pour l'anecdote que j'ai mis ça. Mais il y a des images représentations, évidemment, qui existent spécifiquement d'Averroès, mais je voulais mettre celle-là pour rigoler un petit peu. Alors, qui est Averroès ? Donc, on l'a dit tout à l'heure, je vais vite. Un né à Cordoue dans une famille de juristes, c'est intéressant. Et il a lui-même été, c'est avant tout un juriste, il a été cadi, c'est-à-dire grand juge de la ville de Cordoue, à partir de 1184. Il a été médecin des califes almohades d'Al-Andalus au XIIe siècle, du moins, c'est ce qu'on dit. Je mets un petit point d'interrogation parce que j'ai des doutes quand même. On va voir pourquoi. grand commentateur d'Aristote, on l'a rappelé, hein, c'est vraiment le commentateur d'Aristote, et bon, après une disgrâce, il a été réhabilité, il est mort en 198. Je mentionne sa disgrâce parce que justement c'est l'objet de spéculations sans fin, alors que le problème a été réglé, c'est pas du tout pour des raisons de liberté philosophique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il a écrit essentiellement des œuvres philosophiques, mais aussi pas mal d'œuvres médicales qui n'ont jamais été étudiées, parce que Averroès, c'est vraiment le commentateur d'Aristote, et donc on s'est concentré là-dessus, et donc là, c'est un sujet qui moi, m'intéresse beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à en tirer. Et je vais vous montrer quelques exemples, donc là, c'est des choses plus originales. Le livre des généralités sur la médecine, le Kitab al-Kulliyat fi Tibb, en latin « Colliget », donc traduit, le commentaire au poème de la médecine d'Avicenne, donc il a commenté l'ouvrage d'Avicenne que j'ai évoqué tout à l'heure, donc ce poème sur la médecine. Il a fait des paraphrases, donc des commentaires à Galien, comme il en a fait sur Aristote. Et enfin, quelques petits traités, par-ci, par-là, dont deux ont été traduits en latin. Un traité sur la thériaque, donc c'est un médicament universel qui soigne notamment les empoisonnements, et un autre sur les poisons. Deux traités assez courts. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer ça Averroès, donc, explique au début du Colliget, donc cet ouvrage de généralité, qui est écrit au début de sa vie, hein, dans les années 150, enfin, début des années 160, quel est son but. Et voilà ce qu'il dit. Le but de mon discours, donc dans cet ouvrage, est de proposer pour l'art de la médecine une somme suffisante, par sa concision et sa brièveté, oui, c'est beaucoup plus court que le canon d'Avicenne, qui soit aussi une introduction pour celui qui désire étudier les parties de l'art, et aussi un aide-mémoire pour qui réfléchit à l'art. Donc, à la fois pour des débutants et aussi pour des gens qui connaissent déjà, qui veulent un peu approfondir. Et ce que dit Avicenne, c'est qu'il ne va traiter que les généralités, hein, d'où le titre, hein, les généralités de la médecine, parce que les questions particulières, il va les laisser de côté. Déjà, ça ne l'intéresse pas. Et il considère qu'il y a déjà des traités qui le font très bien. Et voilà ce qu'il dit. Il n'y a aucun doute que l'art de la médecine doit prendre en compte, autant qu'il est possible, les questions particulières, c'est-à-dire comment soigner tel homme avec telle caractéristique, etc., dont nous traiterons à un moment où nous serons plus libres. Bon, en fait, il ne l'a jamais fait. Car en ce moment, nous nous occupons d'autres choses importantes. Qui n'a pas dit ça pour ne jamais faire ce qu'il a dit. Ainsi, celui qui trouve que ce livre, donc le Colliget, manque de cette partie, donc pratique, donc lui, ce n'est pas du tout la pratique qui l'intéresse, doit consulter les autres traités de médecine. Et parmi eux, le meilleur est le livre appelé At-Taizir, composé à notre époque par Abu Marwan ibn Zuhr, donc Avenzoar, hein, traduit lui aussi en latin. Je lui ai demandé ce livre, c'est un contemporain un peu plus vieux que Averroès, je lui ai demandé ce livre et je l'ai recopié pour moi-même. Donc, lui ne va pas traiter toute la médecine comme l'ont fait Razi et Avicenne, il va traiter la partie théorique, la partie générale de la médecine, donc physiologie, comment fonctionne le corps humain, qu'est-ce que c'est qu'une maladie, etc., des choses vraiment très très générales. Alors, pourquoi fait-il ça? Eh bien, parce qu'en fait, Averroès, certes, connaissait la médecine, mais probablement, il n'a pas beaucoup pratiqué la médecine, et quand on lit attentivement le Colliget, ce que peu de gens ont fait, on se rend compte qu'en fait, il le dit lui-même. Enfin, peu de gens l'ont fait, sauf les auteurs latins du Moyen-Âge qui, eux, l'ont lu attentivement. Voilà ce qu'il dit, trois passages. Tu trouveras les questions particulières dans les livres des compilateurs, c'est-à-dire des praticiens, mais moi, je n'en fais pas partie. Donc, vous voyez que, deux informations, lui, il ne se considère pas comme un praticien. Et le terme qu'il emploie, donc, compilateur, est un terme quand même un tout petit peu dépréciatif. Hein. Qu'est-ce que fait un praticien? Il collectionne des cas, il donne des exemples, et c'est ça, la pratique médicale. Hein, c'est la collection des cas particuliers, des particulariats. Et après, il dit un autre moment, je n'ai pas beaucoup pratiqué, sauf sur moi-même, mes proches ou mes amis. Bon, donc effectivement, ce n'est pas une pratique très très importante. Ses amis avaient toute confiance en lui, probablement. Et voilà ce qu'il dit sur Ibn Zuhr, donc il a évoqué tout à l'heure, le plus élevé dans la science de médecine depuis Galien jusqu'à notre époque. Donc pour lui, le bon médecin, c'est Ibn Zuhr, qui, dans son Taizir, fait une collection de cas particuliers. Et si vous lisez, c'est traduit en français, donc on peut le lire récemment, le Taizir donc de Ibn Zuhr, ça commence en disant « On m'a demandé ce traité, j'ai pas envie de le faire, mais bon, je suis obligé, je le fais. » Deux lignes. Et après, « Si vous avez mal à la tête, etc. » Donc, il n'y a pas d'introduction théorique, ce que c'est que la médecine, ce qu'il y a dans toutes les encyclopédies médicales. Il n'y a pas de réflexion sur comment fonctionne le corps humain, etc. C'est de la pratique directe et une collection de cas, il n'y a pas vraiment de plan, hein, c'est très très désordonné. Ben, c'est ça la médecine pour Averroès. Et lui, ce qu'il fait, ce n'est pas réellement la médecine, c'est l'organisation théorique de la médecine. Et voilà ce qu'il dit sur le but de son Colliget, donc son ouvrage principal de médecine. Nous recherchons ici les énoncés conformes au vrai, même si cela contredit les jugements des hommes de cet art. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est le vrai et pas l'aspect pratique. Et il dit un peu plus loin, le Colliget n'est pas fait pour celui qui commence juste à apprendre à lire. Hein, donc c'est un ouvrage quand même qui a une ambition élevée. Alors, voyons maintenant comment il traite les auteurs médicaux. Eh bien, Là où Avicenne disait que c'est pas grave s'il y a des contradictions parce qu'on n'est pas sur le même plan, Averroès, lui, les affronte directement. Et il considère, il attaque très violemment Galien, qu'il considère par ailleurs comme un bon praticien, hein, mais sur la partie théorique, pour avoir contredit Aristote. Comme lui, c'est un commentateur d'Aristote, un excellent connaisseur d'Aristote, il considère que Aristote avait raison et que Galien se trompe précisément, comme le dit Avicenne, parce qu'il n'a pas les moyens, à travers la science médicale, de traiter des questions qui sont philosophiques par nature. Et voilà ce qu'il dit à propos de Galien, un passage, il y en a des dizaines dans le Collégète, je montre un qui est intéressant. Et cette chose, donc cette erreur, est arrivée à Galien dans le livre De la complexion, à savoir que sa doctrine dans ce livre ne s'accorde pas à la doctrine qu'il a faite dans le livre Des éléments par voie démonstrative. Donc il écrit un livre sur les éléments qui est philosophique, démonstratif, scientifique. Puis quand il parle de la complexion, c'est-à-dire quelque chose qui est plus médical, il dit autre chose. Et ses paroles sembleront très légères pour qui a étudié en logique même peu de temps. Donc, en fait, là, les médecins comme Galien se contredisent parce qu'ils ne maîtrisent pas la philosophie, tout simplement. Et la philosophie, c'est Aristote, en réalité. Et un exemple de cela, c'est un cas assez drôle, hein, qu'on rappelle souvent sur Averroès, à propos du sperme féminin. Aristote dit que les femmes n'ont pas de sperme. Les femmes donnent la matière. Alors, on reprend ce que disait Nicolas tout à l'heure, donc c'est très bien, ça m'évitera d'expliquer cela. Un être humain est formé d'une forme et d'une matière. Et pour Aristote, la matière, c'est la femme qui le donne, c'est le sang menstruel, c'est la matière de l'embryon, et la forme, c'est le sperme masculin. Et en fait, le sperme masculin vient donner la forme à cette matière qui est prête à la recevoir et qui va devenir l'embryon. Ça, c'est la théorie d'Aristote. Alors, le problème, c'est comment explique-t-on qu'un enfant peut ressembler à sa mère ? Parce que si la forme vient du père uniquement, bah, comment explique-t-on ? Alors, bon, il y a différentes manières de le faire, notamment de dire que c'est la résistance de la matière à la forme. Bon. Galien dit, non, moi j'ai découvert en faisant des anatomies que les ovaires, il y a des ovaires. Et les ovaires, c'est comme les testicules pour les hommes. Donc, si elles ont l'outil pour créer un sperme, bah, elles créent un sperme. Et donc, Galien dit, peut-être que bon, le sperme féminin est moins puissant que le sperme masculin. En tout cas, il y en a un, c'est évident. Et donc, bon, c'est justifié par l'anatomie. Ce que disent les détracteurs de Galien, donc les aristotéliciens, j'espère que vous me suivez, ils disent, mais en fait, ce sperme féminin n'apparaît que quand la femme éprouve du plaisir, hein, parce que c'est confondu avec la sécrétion, hein, qui a lieu lors du coït. Et donc on pense que c'est ça, le sperme féminin. Et donc, il y a des femmes qui ont des enfants sans éprouver de plaisir, et donc sans sperme. Donc c'est la preuve qu'il n'y a pas besoin de sperme. Et voilà ce que dit Averroès dans son Collégète à ce propos. Et après que j'ai lu les livres d'Aristote, j'ai posé des questions à de nombreuses femmes sur ce sujet. Et plusieurs m'ont répondu qu'elles sont tombées enceintes sans émission de sperme, et même si elles prenaient du déplaisir au coït. Tout va bien. Et j'ai vu aussi plusieurs fois parmi elles certaines tomber enceintes alors qu'elles avaient été violées par des hommes. Et donc, effectivement, n'avaient pas eu de plaisir. Donc, voilà la preuve. Et là, il ajoute, c'est là qu'il dérape un peu, « Et une de mes voisines, dont le serment est tout à fait digne de foi, a juré sur son âme qu'elle est tombée enceinte immédiatement dans un bain de lavage d'eau chaude dans lequel de mauvais hommes avaient éjaculé alors qu'ils se baignaient dedans. » Et donc là, effectivement, il n'y a aucun plaisir. Alors après, il s'extasie en disant « Ah, mais quel exemple magnifique, qui prouve absolument ce que dit Aristote. » Alors évidemment, vous rigolez et vous verrez que vous n'êtes pas les seuls. Alors, voilà un cas donc, où Averroès donc, critique complètement Galien, avec des arguments bon, plus ou moins valables, mais en tout cas, autant les médecins avaient commencé à dire « Oui, bah, peut-être qu'effectivement les ovaires, Averroès revient à Aristote. » Il dit « Non, 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 on revient à Aristote, c'est lui qui a raison. » Parce que sur ces questions qui sont de physiologie, c'est de la philosophie. Alors, pourquoi il fait ça ? Eh bien parce qu'il a une définition de ce qu'est la médecine qui est très différente de celle des autres auteurs. Voilà ce qu'il dit. Nous disons que l'art de la médecine est un art opératoire tiré de principes vrais par lesquels on recherche la conservation de la santé du corps humain et la suppression de la maladie selon ce qui est possible dans chaque corps. Son but est de faire ce qui est nécessaire selon la mesure qui convient et au moment qui convient, puis d'attendre que survienne le résultat, comme dans le cas de la navigation ou de la technique militaire. Donc on voit bien qu'ici ce n'est pas une science, c'est un pur art. Et les principes vrais, bah, c'est la philosophie qui les donne. Donc on tire de ces principes vrais une opération. Alors ça subordonne complètement la médecine à la philosophie, donc il n'a pas d'autonomie intellectuelle du point de vue théorique, mais par ailleurs ça insiste, comme pour la technique militaire ou la navigation, sur l'art du praticien. Un bon stratège, ce n'est pas quelqu'un qui a lu tous les traités de stratégie qui sont parus, c'est quelqu'un qui, une fois à la bataille, bah, remporte la victoire. Bah, c'est exactement pareil pour un médecin. C'est l'expérience qui est fondamentale. Et du coup, Averroès insiste lourdement sur l'importance de l'expérience, parce qu'il dit que c'est ça, la connaissance du médecin. Ce n'est pas la connaissance théorique de comment fonctionne le corps humain, c'est l'expérience. Et à propos, par exemple, des conditions atmosphériques et des altérations qu'elles ont sur le corps humain, le seul moyen pour connaître ces altérations est l'expérience, car les connaître par la démonstration est difficile, voire impossible. Et pour cette raison, il faut sur cette question rassembler les témoignages des anciens et ensuite en donner les causes. Donc c'est un raisonnement inductif, qui donc n'est pas du tout certain, on peut se tromper, mais c'est ça le raisonnement médical. Et donc tout en plaçant la médecine en dessous de la philosophie, eh bien, il lui donne une autonomie avec une méthode propre, expérimentale. Bon, je passe là-dessus, hein, où il dit en gros qu'il justifie les oublis d'Aristote en disant que c'est normal que Galien ait ajouté des choses. Il a complété ce que dit Aristote, ça, c'est tout à fait normal qu'il y ait des progressions scientifiques à propos du rôle du diaphragme que Aristote ne connaissait pas. Hop là. Alors, pour ce qui est de l'Occident, il reste encore 5 minutes, ça devrait aller. Averroès a été traduit en Occident, évidemment plus tardivement que les autres auteurs, puisque lui-même est plus tardif. Il est contemporain de Gérard de Crémone, hein, par exemple, évidemment pas dans la même ville. Le Collégiète a été traduit en 1285 par un juif qui s'appelle Bonacosa à Padoue, à la demande, semble-t-il, de médecins italiens qui s'intéressaient au texte. De manière tout à fait contemporaine, le poème de la médecine, le commentaire au poème de la médecine d'Avicenne a été traduit en 1284 à Montpellier par Armand Goblès, qui est en fait le gendre ou le neveu d'Arnaud de Villeneuve que j'évoquais tout à l'heure. Bon, je n'ai pas du tout parlé des questions des traductions, mais par exemple, la traduction de Bonacosa, moi j'ai fait une comparaison terme à terme avec l'arabe, est excellente, vraiment excellente. La traduction d'Armand Goblès est catastrophique. On ne comprend rien du tout et il fait des erreurs, mais énormes. Bon, je pense qu'il ne connaissait pas bien l'arabe quand il l'a fait. Et bon, je ne suis pas intervenu là-dessus, mais c'est vrai que le traducteur est quand même important. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le commentaire au poème de la médecine a eu peu de succès parce qu'on n'y comprend rien, tout simplement. Alors que le texte d'Averroès est très clair, mais la traduction ne l'est pas. Et donc, des traductions anonymes de deux petits traités qui sont moins importants. Alors, comment était considéré Averroès en Occident ? Eh bien, comme un perturbateur. Puisqu'il n'arrête pas de critiquer les médecins, et notamment Galien, eh bien, il énerve assez les médecins. Je cite deux auteurs, Pietro d'Abano, donc un médecin italien de la fin du XIIIe, début XIVe. Il faut savoir qu'ensuite, à propos du sujet, vous allez voir lequel, après ceux dont je viens de parler, est arrivé Averroès de Cordoue, querelleur ennemi des antiques, commentateur excellent d'Aristote, et qui s'est efforcé de montrer dans le livre 2 du De Anima, dans le De Sensu et Sensato et dans le livre 5 du Collégiète, animé d'une haine contre les médecins et particulièrement contre Galien, que la mer, voilà la question fondamentale, est causée non seulement par le chaud, mais aussi par le froid. Et Gentile da Foligno, que j'ai évoqué tout à l'heure, à un moment, il s'énerve, il dit « Averroès, stimulateur impertinent de nos prudents auteurs ». Donc, il est considéré comme un perturbateur, quelqu'un qui vient remettre en cause des choses pour lesquelles tout le monde est d'accord, sauf lui. Mais par ailleurs, il est aussi considéré comme ayant mieux compris ce qu'était l'essence même de la médecine. Et Avicenne, dans le canon, disait que la médecine, c'est une vraie science, qui a aussi une partie théorique. Et dans la marge d'un manuscrit latin du canon d'Avicenne, du tout début du XIVe siècle, voilà ce que met un commentateur anonyme, donc il met ça dans la marge, à côté de la définition d'Avicenne, la définition d'Averroès est plus complète que toutes les autres, parce qu'elle atteint plus explicitement tout ce qui touche à l'essence de la médecine. Donc cette partie expérimentale qui fait la nature de la médecine, ça apparaît au XIVe siècle comme, oui, c'est vraiment ça la médecine. Hein, ce n'est pas les réflexions théoriques sur qu'est-ce que c'est que le corps, où est l'origine de la sensation, ce n'est pas ça, fondamentalement, la médecine. C'est important de le savoir, mais ce n'est pas ça. Et pour l'exemple du sperme féminin que j'évoquais tout à l'heure, voilà ce que dit Jacques Despard, médecin, donc commentateur d'Avicenne au XVe siècle. « Oh bon Averroès, je crains que ta voisine et les mensonges des autres femmes ne t'aient abusé, à l'instar de nombreux philosophes qui sont parfois trompés par leur crédulité et leur légèreté. » Donc, bon, là, il dit « Non, là, elle t'a un peu embobiné, hein, c'est pas vrai, ça ne s'est pas passé comme ça. » Donc, ils ne sont pas dupes de ce que dit Averroès, mais... Ce point avait été réglé, en fait. On dit, OK, c'était réglé. Le fait qu'il insiste là-dessus fait que certains se posent des questions sur des sujets qui semblaient réglés. Et voilà Tommaso del Garbo, un médecin donc, du XIVe siècle. L'autre opinion, toujours à ce sujet de l'exemple du sperme féminin, est celle que pose Galien dans le second livre de son Desséminé, traduit par Niccolo da Reggio, opinion que je défends désormais, bien que tous les autres critiquent Galien. Donc, en fait, Averroès avait critiqué... Averroès et d'autres, avaient critiqué Galien en se basant sur Aristote. Tommaso del Garbo, voyant que ce point, et notamment les arguments d'Averroès sont un petit peu critiquables, décide de prendre une position complètement opposée. Donc il a réavivé un débat qui, au XIIIe siècle, était complètement réglé, en fait. On disait, bon, OK, Aristote a raison d'un point de vue philosophique, et comme l'a dit Avicenne, on ne se pose pas trop de questions, finalement, ce n'est pas fondamental pour soigner une femme enceinte. Eh bien, Tommaso del Garbo, lisant ça, dit, non, je vais revenir là-dessus, parce qu'Averroès, là, va trop loin, et je vais revenir à Galien. Donc ce rôle perturbateur réactive des débats qui sont fondamentaux pour la médecine. Donc quels apports pour Averroès ? une soumission à la philosophie, mais qui paradoxalement libère la médecine d'un aspect trop théorique et trop engoncé dans des débats philosophiques. Deuxièmement, un rôle de perturbation des idées médicales bien établies, qui donc va activer des débats qui par la suite auront des, alors pas immédiatement au Moyen-Âge, mais auront des suites et des résultats concrets. Et enfin, surtout, la revalorisation de l'expérience pratique du médecin. Mais l'expérience vraiment du praticien, son habileté personnelle. Et donc, c'est ça ce que peut apporter la médecine à la science médicale. C'est-à-dire que la science médicale est composée aussi d'une part de biologie, bien sûr, d'anatomie. Mais ça, c'est de la philosophie naturelle. En revanche, ce qu'apporte la médecine proprement dite à la science médicale dans son ensemble, c'est cette connaissance pratique. Il y a le bon médecin et le mauvais médecin. Et les deux ont les mêmes sciences, la même science, mais après, c'est autre chose pour les distinguer, je ne dirai pas comment. Conclusion. Trois points, comme toujours, je suis complètement obnubilé, trois points. De quoi parle-t-on ? Parle-t-on d'une influence ou d'une réception ? Eh bien, je pense qu'il faut surtout parler d'une réception. Puisque les auteurs n'ont pas été intégralement traduits, certaines œuvres ont été laissées de côté, notamment toute l'œuvre philosophique de Razi n'a pas du tout intéressé les latins, alors que c'est l'œuvre philosophique une des plus originales produites par le monde arabe. Notamment, il a critiqué toutes les religions en disant que c'était des fables. Il a une théorie philosophique extrêmement originale. Bon, ben ça, comme on le considérait comme un excellent expérimentateur, bon, ben cet aspect-là n'a pas intéressé. Et même quand il était là, partiellement traduit, il n'a jamais été lu et utilisé. Parce que ce qu'on a cherché chez Razi, c'est uniquement cet aspect pratique. Et à l'inverse, chez Avicenne, il a écrit des traités très, très pratiques sur des maladies très précises. Ça n'a jamais été traduit. Ce qui intéressait, c'est le canon, cette grande œuvre synthétique, explicative et générale. Donc une réception, et je ne fais que répéter ce qui a été dit toute la journée, le rôle du milieu de réception est plus important que le milieu de production. Ce n'est pas une influence directe, automatique. C'est un choix, une sélection dans ces influences. Comme je l'ai dit au début, des découvertes médicales ponctuelles, il y en a quelques-unes, malgré tout, on pourra en citer. Mais fondamentalement, tout ce que je vous ai dit là, ce n'est pas des découvertes fondamentales. On n'a pas réussi à soigner la peste, par exemple, à travers les auteurs arabes. Ce qui a été modifié, c'est le cadre théorique global dans lequel s'exerce la médecine, avec donc la valorisation d'une méthode propre. Et si on y réfléchit bien, qu'est-ce qui est le plus important ? Claude Bernard ou Yersine ? Celui qui a inventé la médecine expérimentale ou celui qui a découvert le bacille de la peste ? Et fondamentalement, pour avoir les découvertes du bacille de la peste, il faut avoir d'abord des méthodes expérimentales élaborées scientifiquement. Donc, comparaison que je ne vous encourage pas à reprendre, mais malgré tout, ça vaut une idée. Finalement, ce qui est important, fondamentalement, c'est la manière dont on conçoit la médecine et pas tellement telle ou telle découverte qui peut être faite par hasard. Et il y en a, notamment la circulation du sang, etc. Enfin, respect ou trahison des auteurs antiques. L'image du sceptre que Leclerc mettait en avant est en fait partiellement vrai. Il y a évidemment beaucoup de traités grecs qui sont traduits de l'arabe, passés par intermédiaire arabe. Mais en réalité, il y a une liberté d'interprétation des auteurs, parfois des critiques, alors trahison c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas une remise en cause des auteurs, un dialogue avec les auteurs, et là aussi, comme le disait Nicolas tout à l'heure, ce qui est caractéristique de la science arabe, et qui justement se distingue par exemple de la littérature, qui a quand même eu des influences, ou du droit islamique, c'est que c'est quelque chose qui est universalisable. Et donc, ce qui intéresse les auteurs chez les Arabes, c'est leur qualité scientifique, et donc ici médicale. Et donc, s'ils se trompent, on va le dire. S'ils ont raison, on va le dire. Et de la même manière avec les auteurs grecs. Et d'une certaine manière, la Renaissance est une sorte de régression par rapport à cela. Puisque, en voulant retrouver le Galien authentique, et ce qui aura des effets tout à fait positifs, puisqu'on va redécouvrir des textes de Galien extraordinaires, comme ces ouvrages d'anatomie qui n'étaient pas connus des latins. Donc cette recherche humaniste aura vraiment un effet sur la science positive. Mais d'un autre côté, on abandonne, sans réellement l'abandonner en réalité, mais au moins officiellement, toute une part de structuration de la science. On va oublier les Arabes tout en conservant ce qu'ils ont apporté, c'est-à-dire la définition de la médecine et un intérêt pour l'expérimentation. Et je crois que j'en ai fini. Merci.
Merci Joël, comme toujours. Donc,
oui, vous avez parlé de Gentile da Foligno et de son traité sur la, peste. Et je me suis demandé, il a montré sa connaissance de la méthode d'Avicenne, mais est-ce qu'on peut remarquer dans son œuvre, des influences ou des reprises évidentes des auteurs anciens, comme par exemple, je pense à Lucrèce, qui a décrit la peste dans l'œuvre de Rerum Natura, ou par exemple, je pense à Thucydide, ou à Plutarque, je ne sais pas.
Oui, alors, dans le passage que j'ai coupé, en fait, bon, faute de temps, je vais le retrouver. Donc, sur la peste, voilà, c'est ça. Donc, aucune pestilence, etc. Le passage coupé, après Italie, il cite Thucydide. Il dit, et il cite des auteurs grecs anciens qui ont décrit des pestilences, et il dit, bon, elles étaient très graves, mais ça n'a rien à voir, parce que là, ça a l'air beaucoup plus grave que ce qui s'est passé. Donc, effectivement, il les cite. Il cite explicitement Thucydide, que d'ailleurs probablement il connaît via Galien, qui le cite lui-même dans ses ouvrages. Donc effectivement, oui, il connaissait. Alors Lucrèce, non, parce que Lucrèce était peu connu ou pas connu à cette époque-là. Mais Thucydide, oui.
Je voulais vous demander quel était le rapport des auteurs dont vous avez parlé vis-à-vis de la pratique de l'anatomie, et si les traités qui sont passés de l'Orient à l'Occident étaient accompagnés par des illustrations.
Alors, pour ce qui est de l'anatomie, donc je l'ai dit à toute fin, il y a une difficulté pour les auteurs latins, c'est que les grands ouvrages d'anatomie, donc les administrations anatomiques de Galien, l'utilité des parties du corps, ou bien n'ont pas été traduits, donc ce cas des administrations anatomiques, ou bien pour l'utilité des parties du corps, en fait, on a traduit un résumé arabe de ce traité. Il a été traduit seulement au XIVe siècle, donc retraduit, avec peu de diffusion. Donc il ne connaissait pas bien l'anatomie galénique. Par ailleurs, en revanche, il y a dans les ouvrages arabes des reprises, notamment Avicenne fait des copier-coller des traductions de Galien de ces ouvrages-là pour présenter l'anatomie du corps. Alors, du coup, premier mode de connaissance, c'est les auteurs arabes qui transmettent des textes grecs mal connus ou pas connus. Deuxième mode de connaissance, c'est la dissection qui apparaît, enfin, ou réapparaît en Occident, disons, au début du XIVe siècle, à peu près. Enfin, XIIIe, début XIVe, on ne sait pas exactement quand. Mais là aussi, les auteurs en fait, ne sont pas là pour faire des nouvelles découvertes. Enfin, ce n'est pas tellement ce qui les intéresse, c'est plutôt d'illustrer ce qu'ils ont dans les textes. C'est-à-dire qu'ils voient dans les textes une description, ils vont ouvrir un corps pour regarder, pour montrer aux étudiants, notamment, c'est fait dans un cadre pédagogique, que voilà, ça correspond bien à ce qui a été dit. Donc ça n'a pas apporté des grandes nouveautés non plus. Et par exemple, les universités prévoyaient une dissection par an pour l'ensemble de l'université. Donc effectivement, ce n'est pas comme ça qu'on fait des découvertes. Quand on regarde Léonard de Vinci, bon, il en disséquait des dizaines. Enfin, Léonard de Vinci et Vézal, enfin voilà, tous les auteurs du XVIe siècle. Et pour ce qui est des images, eh bien, évidemment, il y avait des manuscrits arabes illustrés, le canon d'Avicenne notamment, avec des illustrations parfois simplement illustratives, vraiment, parfois techniques. Elles n'ont pas été reproduites pour la plupart. Ou quand elles ont été reproduites, c'était quand elles étaient schématiques, c'est-à-dire qu'elles donnaient des explications globales, comment organiser tel organe, mais vraiment, ce n'est pas une description anatomique, enfin une image anatomique qui se veut fidèle. C'est plutôt une image fonctionnelle, pour comprendre les différentes fonctions, les différentes parties. Par exemple, pour le cerveau, bon, ils considèrent qu'il y a trois parties dans le cerveau, donc on va faire un cerveau puis avec trois ronds. Voilà, c'est les parties du cerveau. Mais ce n'est pas une description comme, voilà, comme chez Vézal, où on n'a pas exactement ce genre d'image. Donc, elles n'ont pas été transmises, les plus belles images qu'on a dans le monde arabe. Par contre, elles ont été reproduites à partir du XIVe, à partir du moment où on fait quelques dissections. On a quelques cas d'images anatomiques. Enfin, on a un cas, notamment, c'est un médecin italien qui s'appelle... son nom m'échappe. Bref, peu importe, je crois que c'est Mondino di Luzzi, mais non, c'est pas lui, enfin, en tout cas, un médecin italien de la première moitié du XIVe siècle, dont un élève raconte qu'après, il utilisait des planches anatomiques. Donc il avait des images qui représentaient le corps, donc des grandes images qu'il montrait à ses élèves. Bon, on les a pas conservées, donc on sait pas ce qu'il y avait dedans, et on sait pas si elles venaient du monde arabe ou pas, malheureusement.
Ce serait une remarque plus qu'une question. C'est la première citation que vous avez faite de Razi, qui met en perspective là finalement ce qu'on appelle la translatio, bon, le transfert et ses modes de réalisation. Translatio qui consiste finalement celui qui vient ensuite à surpasser, c'est le mot qu'utilisait la traduction, le devancier. Évidemment, le littéraire que je suis, et je pense que les étudiants l'auront eux-mêmes noté, cette formulation fait un écho très fort avec le prologue des Lais de Marie de France à la fin du XIIe siècle, où elle met en avant son travail d'écriture par rapport aux Lais bretons, et elle généralise d'ailleurs la chose en disant qu'il s'agit de gloser la lettre, c'est-à-dire de commenter, et ce faisant, d'y apporter, d'y mettre le surplus de son sen, c'est-à-dire de son intelligence. Donc il y a cette idée-là de surplus, évidemment, qui peut être un fil dans les différentes communications qu'on a entendues aujourd'hui, sans recourir à l'image de Bernard de Chartres, des nains juchés sur les épaules des géants, évidemment.
Oui, tout à fait, oui. Mais d'ailleurs, Guy Beaujean avait écrit un article qui intitulait « La découverte de l'aptitude à innover au XIIe siècle », et il citait notamment, je crois, ce passage de Razi, donc, qui ouais. montrait que voilà, c'est une idée qui... Alors, mm-hmm. n'a pas été traduit en latin, ce passage-là, hein, donc c'est pas, ça ne vient pas de là, mais c'est une idée qui apparaît plus tardivement, mais qui a déjà existé dans d'autres espaces.
Oui, c'est la mise en regard plutôt qu'une.
Oui, bien sûr. Oui, oui, oui.
Un enchaînement de relations étroites, évidemment.
Oui, tu parlais aussi tout à l'heure d'un poème sur la médecine. Mm-hmm. Est-ce que c'est fréquent dans le monde arabe et est-ce qu'on a des équivalents dans le monde latin? Et puis, dernière question concernant ce poème, est-ce que c'est le même contenu? Parce que tu parlais d'une mémorisation plus grande par la forme poétique, parce que c'est peut-être aussi pour ça que la traduction est plus difficile. Enfin, j'imagine, je connais pas la oui. poésie arabe, mais
alors oui, c'est un genre qui est pas fréquent. Mais enfin, il y en a plusieurs exemples dans le monde arabe, des poèmes qui sont des poèmes généraux sur la médecine, donc à viser voilà plutôt d'introduction que des choses précises. En Occident, il y a plutôt c'est assez rare quand même. Il y a plutôt des, enfin il y a quelques-uns, notamment je pense à un du tout début du XIIIe siècle, Gilles de Corbeil, qui est un médecin qui a fait plusieurs poésies latines, mais portant sur la pharmacologie par exemple, ou des choses comme ça, ou sur les urines. Donc c'est des traités qui ne sont pas du tout le même objectif, même si évidemment l'objectif de mémorisation est assumé, même affirmé par l'auteur, ce n'est pas une généralisation sur la médecine. Donc il n'y a pas réellement de correspondance directe dans le monde latin. Ce qui est intéressant pour le poème d'Avicenne, c'est qu'en fait il ne dit pas exactement la même chose que dans le canon d'Avicenne. En fait il simplifie un peu les choses, il est moins philosophique. Et même, c'est le seul endroit où je le vois un peu se contredire sur certains aspects, parce qu'en gros, là, c'est adressé aux purs médecins, et donc, il donne la théorie des médecins, même si elle est fausse, d'un point de vue philosophique. Parce qu'il ne va pas dire, est-ce que c'est le cœur, est-ce que c'est le cerveau, il va dire, c'est le cerveau. Parce que pour le médecin, c'est ça qu'il doit savoir. C'est pas que... Au contraire, il doit même ne pas savoir qu'il y a un débat sur l'origine de la sensation. Donc, ce n'est pas vraiment qu'il est incohérent, mais il est cohérent du point de vue de l'objectif. C'est-à-dire qu'il s'adresse à des médecins, pour les médecins. Et donc, il ne traite que en médecin cette question et pas du tout. Donc voilà la différence. Pour ce qui est de la traduction, malheureusement pour le pauvre Armand Goblaise, je suis méchant avec lui parce que le pauvre, dans les conditions auxquelles il travaillait, le commentaire d'Averroès est tout aussi mal traduit que la partie poétique. Et donc, non, c'est vraiment qu'il avait des difficultés avec la langue.
Je vais compléter un peu cette question par rapport aux mathématiques. En fait, la poésie, enfin l'écriture en vers est un style littéraire qui va prendre quelques auteurs comme ça, mathématiques, aussi bien pour l'algèbre que pour la géométrie. J'ai un exemple en algèbre, Ibn Elias Amin, fils du jasmin, qui est andalou et mourra à Marrakech, va écrire un poème d'algèbre pour renfermer toutes les 6 équations d'Al-Khwarizmi et les méthodes de résolution. C'est un grand poème. Alors on dit que ce sont des poèmes didactiques, mais à ma connaissance, moi en tout cas dans les mathématiques, j'ai aucun témoignage direct d'enseignement de ces poèmes-là qui montrerait que la forme poétique est plus adaptée à l'apprentissage et à la mémorisation. Ça nous semble un argument fort, mais voilà, c'est peut-être rationnel cet argument et non historique. Et puis en géométrie, j'ai découvert un poème de plus de 200 vers de géométrie pratique qui pourrait être finalement l'ensemble du programme de collège, des formules de calcul de surface, de lignes et de surface, des polygones assez élémentaires, d'ailleurs jusqu'aux surfaces courbées. Donc ça c'est un andalou du 14e, un polymathe qui a fait aussi un poème sur l'agriculture. Donc c'est un style littéraire qui va qui a quand même droit de cité dans les productions scientifiques, mais je n'ai pas de traduction latine de ces textes là premièrement, et je connais très peu de poèmes latins mathématiques. J'en ai un pour la numération indo-arabe tout court. Il y en a un dans l'édition de L'Huillier sur le quadripartitum numérorum de Jean Demure pour l'algèbre. Et dans une traduction arabo-latine, il y a dans un texte 3 paragraphes donnant les algorithmes de résolution de l'équation du second degré, là, les complètes, sous forme de vers. Mais c'est plutôt une forme éditoriale dans le grand texte qu'un poème bien scindé. Mais les règles de la poésie arabe, sont complètement respectées, aussi bien dans la rime que le rythme, très compliqué. Et évidemment, en tout cas pour le texte latin dont je parle, qui est la seule traduction arabo-latine que je connaisse, c'est pas respecté. C'est la poésie latine qui est respectée, les critères du latin qui est respecté.
Et alors, je complétais, effectivement, je pensais à un autre après. C'est quand même plus fréquent dans le monde arabe que dans le monde latin, la médecine en vers. Pour le monde latin, c'est surtout dans les périodes anciennes, au XIIe siècle, au XIIIe siècle, parce qu'il y a aussi le régime de santé de Salerne qui est écrit en vers. Mais c'est des ouvrages anciens, en fait. Et à partir du moment où ça rentre à l'université, il y a des petits vers parfois pour se souvenir de trucs mnémotechniques, mais c'est 4 ou 5 vers, des formules pour retenir des divisions, des choses comme ça. Des longs poèmes rédigés entièrement, ça n'existe plus.
Y a-t-il dans ces textes des descriptions plus ou moins précises d'actes chirurgicaux ? Et si c'est le cas, par quels termes techniques sont-ils décrits ? Est-ce qu'on a là aussi des néologismes, des périphrases ou des termes latins qui peuvent déjà y faire référence avec précision ?
Alors oui, il y a des ouvrages de chirurgie, c'est tout un pan de la médecine très important donc qui est connu via les Arabes, notamment Ibn Zur, donc, que j'ai évoqué tout à l'heure, a écrit un traité de chirurgie qui a eu un grand succès en Occident, avec dans ses ouvrages arabes des dessins d'outils chirurgicaux, hein, des scies, des choses horribles, des pinces, et qui ont été reproduits dans les manuscrits latins, alors avec plus ou moins de succès, mais enfin en gros, quand même, il y a un relatif respect, c'est plutôt bien fait, parfois c'est raté, des fois c'est quand même, là en l'occurrence c'est plutôt bien fait. Et du coup, il y a effectivement, mais de toute façon, c'est tout le vocabulaire médical est très très arabisé, beaucoup plus, justement, c'est la question que je posais, et que probablement le vocabulaire, mathématique, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'outils dont les auteurs ou ne comprenaient pas bien l'utilisation, s'il n'y avait pas de description précise, ou tout simplement il n'y a pas d'équivalent, hein, puisque la science chirurgicale, les outils qui sont inventés n'ont pas d'équivalent direct. Donc il y a énormément de translittérations, parfois effectivement avec des explications. Ce qu'on trouve beaucoup dans les traités de médecine, notamment pour Avicenne, le canon, pour Razi, pour d'autres, c'est des notations marginales qui sont faites probablement par le traducteur, qui, dans la marge, a mis une petite explication du terme quand il savait ce que c'était. Et postérieurement, ça a souvent été regroupé dans des synonymas, des espèces de glossaires géants, multilingues. Et le plus connu de ces synonymaires, c'est celui qui a été fait par Simon de Gênes, donc à la fin du XIIIe siècle, qui contient 6 000 entrées. Et c'est de la médecine, hein, c'est 6 000 termes de médecine qui ne sont pas en latin, mais qui sont utilisés dans la... Alors, ça peut être de l'anatomie, de la chirurgie, évidemment, beaucoup de plantes. Et à chaque fois, il donne l'équivalent latin, ou s'il n'y en a pas, à quoi ça correspond, d'où vient la plante, si c'est une plante orientale, indienne. Bon, bah, évidemment, elle n'existe pas, mais il dit, voilà, il est cité dans Avicenne, à tel moment, on pense que c'est indien, etc. Donc, ils ont fait ce genre de glossaire. Mais effectivement, c'est truffé de mots arabes, et c'est ça qui n'a pas plu, évidemment, aux humanistes. Et pour la chirurgie, c'est particulièrement le cas, et notamment pour ce qui concerne les outils et l'anatomie.
Donc je pense qu'on arrive à la fin de la journée. On va t'applaudir, Joël. Merci beaucoup. Une brève conclusion, Sabine et puis Monsieur Aurel. Improvisé.
Oui, très improvisé. Non, ben, j'espère vous avoir fait, que nous quatre, on vous a fait partager notre passion pour le Moyen-Âge et pour cette période particulièrement riche d'enseignements. Comme vous avez pu le voir à travers nos différents exposés, c'est pas tant, comme je l'ai dit et je me répète un peu, les grandes innovations qui sont intéressantes, mais justement les déplacements, l'assimilation, l'acculturation, les déplacements, les dépassements liés à ces déplacements. Voilà, c'est un peu ça que j'aimerais retenir de cette journée. Avec des problématiques qui sont peut-être pas d'ailleurs propres au Moyen-Âge, mais qui serait bien d'interroger aussi pour cette deuxième phase qui est la Renaissance, hein, où là on redécouvre les textes grecs, et là aussi il faut se demander pourquoi. Et pourquoi des textes d'ailleurs qu'on connaissait déjà avant, tout à coup prennent une actualité importante, et pourquoi on les redécouvre et pourquoi on les lit autrement. Donc voilà, mais ça, ce serait une autre journée. Mais puis, en tout cas, on sortirait du Moyen-Âge. Mais voilà, en tout cas, il y a des parallélismes, mais aussi des grandes différences entre ces deux périodes d'apport très important, d'éléments extérieurs à une culture. Et donc, la question qui se pose, c'est comment ces éléments extérieurs sont intégrés et pourquoi on s'y intéresse. Parce que, effectivement... c'est pas parce qu'on a des textes à disposition que nécessairement, et c'est pas parce qu'ils ont été traduits que nécessairement, on va s'en emparer. Donc c'est aussi pourquoi on s'en empare et comment on s'en empare et pour faire quoi. Donc voilà.
Merci beaucoup. Merci Sabine. Donc merci Anne de me donner la parole. Bon, j'improvise un peu, mais de toute façon c'est facile parce que je suis dans un état de jubilation intellectuelle grâce aux quatre communications d'aujourd'hui. C'est vrai, c'était d'un très bon niveau. Et surtout, on a la chance d'avoir beaucoup d'étudiants de master, de doctorants. Et c'était une leçon de méthodologie. Juste deux citations. La première d'Einstein, c'est la théorie qui montre ce qui doit être étudié. Et vous êtes parti souvent de théories un peu générales, abstraites, Leclerc, Ernest Renan, etc. Mais Marc Bloch a dit aussi, ce sont les méchants faits qui détruisent les belles théories. Et c'est vrai que c'était une leçon de méthode dans la mesure où vous êtes resté très, très près des textes, les analysant avec beaucoup d'acribie, d'érudition, de précision. Et c'est là où on voit véritablement la science en train de se faire et les apports du chercheur. Vous avez bien fait de me corriger, de dire nous ne sommes pas de savants, mais des chercheurs. C'est juste, nous ne savons jamais assez et nous voulons progresser. Nous ne nous contentons pas de théories un peu fumeuses, mais nous allons voir la matière première, peut-être avec une forme que nous essayons de lui insuffler, de lui donner. Mais du point de vue de la méthode, c'était une vraie leçon et je suis heureux qu'il y ait autant d'étudiants, d'autant plus que c'était quatre orateurs exceptionnels, pleins de vie, d'humour, avec beaucoup de qualités pédagogiques. Là encore, c'est une leçon pour des futurs enseignants. Merci.
Je parle au nom de nous quatre, je pense que j'ai le droit de le faire, ils ne vont pas me contredire, mais en vous remerciant pour vos questions et votre attention. Voilà, un grand merci à vous.
Merci au public, aux auditeurs. Ouais. Merci au SCR.